Bain de soleil à l'hôtel de la plage sur Verigoud Cap Ferret. Le direct de l'été en plein village de l'herbe au bord de l'eau. De 8h du matin à minuit, on partage tous l'esprit cabane tendance et chic de l'hôtel de la plage. Buvez un verre, mangez nos produits frais, séjournez à l'hôtel de la plage et voilà, vous faites partie de la famille.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'hôtel Côté Sable où nous nous sommes rabattus pour des questions de météo. Figurez-vous qu'aujourd'hui la presqu'île du Cap Ferret sera orageuse, sera pluvieuse, tout au contraire de cette émission où nous allons, je pense, avoir une sorte de sérénité et de calme, peut-être un peu inhabituel d'ailleurs en ce qui me concerne. Alors pourquoi avons-nous démarré cette émission par cette célèbre chanson de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence ? C'est parce que nous avons un programme absolument exceptionnel aujourd'hui. Notre ami Pascal Bataille, il y a quelques mois, avait sorti Petit traité du silence à donc l'usage des gens bruyants chez Très Daniel, et il a été invité partout, sur les grands médias, sur les grands journaux, magazines. Et nous, on voulait bien sûr parler de ce livre aussi, mais on se demandait comment on pourrait faire après tout cet aréopage de grands journalistes qu'il avait interrogé. Et là, on a eu une idée formidable. On a un autre ami formidable depuis de longues années qui s'appelle Philippe Lefay et qui a été un monsieur qui d'abord a présenté bien sûr le journal télévisé et qui ensuite était aux commandes du magazine culturel survivant, j'ai envie de dire, pendant de très longues années, Des mots de minuit, sur le service public. Donc qui aurait pu être mieux habilité à interroger Pascal Bataille que Philippe Lefay? Moi, je vais vous le dire, personne. Et donc, nous sommes absolument fiers de ce programme. Je vais me retirer sur la plante des pointes des pieds, si j'ose dire.
La plante des pieds, il a les pieds pleins.
Remercier Brutal, évidemment, pour toute cette nouvelle technique de dernière minute, puisque je le répète, il pleut, nous sommes installés dans l'hôtel.
Et aujourd'hui, on fait dans le feutré.
Et aujourd'hui, la première heure, en tout cas, on fait dans le feutré. Et c'est donc Philippe Lefay qui va interroger Pascal Bataille au sujet du petit traité du silence paru chez Très Daniel. Je me permettrai de temps en temps de lancer les publicités, de faire des petites pauses. Et toi, Philippe, très important, parce que tu as prévu quelques sons également, il faudra que tu lances les sons que tu as prévus et que tu les demandes à Brutal. C'est-à-dire que tu lui diras tat, tat et tat. Ok, c'est parti pour
c'est vache, ça.
Petit
bien
traité
compris,
du silence.
Hein. Tac, tac et tac.
Exactement. Entre Philippe Lefay et...
Tu me demanderas.
C'est par qui tac.
Pascal Bataille. Allez, on y va, c'est parti.
Ah, je peux y aller ?
Tu peux, tu dois y aller.
Je dois y aller. Bonjour Pascal.
Bonjour Philippe.
Heureux de te voir là et en pleine forme. En fait, je pense qu'il y a trois moments dans l'interview que je me suis dit comment je vais faire ça, parce que pour le coup, on est dans des formats inhabituels, chez des copains. Et je pense que la première partie, c'est ça va te concerner toi. Ça va être... j'avais appelé ça... Mes silences, mes batailles. Mes silences, ma bataille. Donc, c'est plus personnel. Ensuite, dans un deuxième temps, peut-être qu'on pourra décliner les différents silences que tu abordes dans ton livre. Je pense que c'est important. Et puis, troisièmement, peut-être, là, pour le coup, élargir complètement la discussion sur les silences assourdissants du monde contemporain. Gaza, l'Ukraine. Et c'est si... traité de paix, pseudo-traité de paix, qu'a imaginé Trump dans sa biographie, et qui sont évidemment... Bon, enfin, schématiquement, c'est un peu ce qui est un peu immédiat aujourd'hui dans l'assourdissant silence du monde contemporain. Premier temps, j'ai retrouvé, alors, c'est très drôle, parce qu'hier soir, enfin, pas hier soir, parce qu'il faisait froid, mais quand je lis le soir, hier, j'ai retrouvé, il y a un bouquin qui traîne, qui est un Pléiade, donc c'est de la pleine peau, hein, mais bien trituré, et c'est Jean Giono. Et j'ai retrouvé chez Giono cette phrase, et ce qui me permet d'aller vers toi, Giono écrit, alors par ailleurs, je ne savais pas qu'il avait chroniqué, par exemple, le procès Dominici.
Je ne savais pas non plus.
Et il a dans son journal, etc., et il a une phrase qui est la suivante. « Je me suis efforcé de décrire le monde, non pas comme il est, mais comme il est quand je m'y ajoute, ce qui, évidemment, ne le simplifie pas. Hein » Donc, « Je me suis efforcé de décrire le monde, non pas comme il est, mais comme il est quand je m'y ajoute. »
Ouais.
Et évidemment, ce qui ne le simplifie pas. Et pour le coup, j'ai été absolument bluffé par ton bouquin. Je ne dirais pas bouquin, parce que je trouve que c'est irrespectueux pour les livres. J'ai été bluffé par ton livre et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce livre, qui est un livre de poche, pourquoi je dis ça? Ça n'a aucune dimension péjorative. Parce que c'est un livre qu'on met dans la poche et qu'on peut sortir de temps en temps, y piquer une phrase et s'en nourrir. Pour réfléchir à ce qu'on est, pour réfléchir à un chemin de soi. Et je trouve ça épatant. Et vraiment, tu m'as appris beaucoup de choses. Je trouve ça très, très bien. Et on ne t'attend pas forcément là. On t'attend derrière le rideau. Et je pourrais en dire un mot tout à l'heure dans la manière dont je te perçois derrière le rideau. Ce qui est assez étonnant, parce que ça m'a toujours troublé. Pas que tu fasses cette émission, mais simplement dans ton approche de l'autre. Et dans cette forme... cette forme d'humanité ou cette forme d'accueil qui est le tien. Je trouve que ça, c'est plutôt épatant. On te connaît aussi au Cap Ferret parce qu'il y a Côté Sable, mais il y a aussi Côté Sable en Normandie, mais qui ne s'appelle pas Côté Sable, pour le coup. Donc là, tu es propriétaire, tu es châtelain, ou en tout cas hôtelier. Et puis, il y a ce livre... alors bien sûr, cagne, hypocagne, bien sûr tout ça, mais première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et en quoi ça t'a aidé de le faire?
Alors c'est une très bonne question. Déjà, je voulais te dire, et sans flagornerie, à quel point je suis heureux et flatté d'être aujourd'hui, grâce à Hervé, interviewé par toi, parce que quelque part... c'est un peu une consécration quand on écrit un livre d'être interviewé par Philippe Lefebvre. Si, en tout cas, moi, j'en ai toujours rêvé. Pour aller plus loin vers ta question, qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? En fait, je pense que c'est un livre que j'ai depuis très longtemps en moi, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, hein, et que j'explique aussi au début, en introduction du livre. Qui s'est finalement un peu imposé tout d'un coup comme une urgence. Mais tu sais, les urgences, elles viennent aussi par les circonstances. Donc des circonstances mêlées qui ont été à la fois une proposition tout simplement de mon ami Mathias Leboeuf qui dirige cette collection. Et les petits compliments que tu faisais sur le format du livre et ce côté un peu, on peut le picorer, ça donne à réfléchir, on l'ouvre, on le referme, on y revient. C'est un peu le format de cette collection et c'est un peu le cahier des charges de cette collection que je trouve merveilleuse. Et c'est pas parce que j'y publie que je dis ça, mais vraiment parce que c'est le genre de livre que j'aime bien moi avoir aussi avec moi. Et donc Mathias Leboeuf qui connaît mon amour de la philosophie et qui connaît aussi mon envie d'écrire et de publier, m'a dit mais pourquoi tu ferais pas, quand lui-même avait publié le petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés, il m'a dit mais pourquoi tu en ferais pas un dans la collection? Et je lui ai dit tout de suite ben j'adorerais, et il y a un thème qui m'est cher, qui est important pour moi, c'est le silence. Bon, ça c'est la circonstance, je dirais, éditoriale et la proposition. Et puis il y a eu comme je l'écris, la vie réserve parfois fait parfois preuve de mansuétude dans les épreuves qu'elle nous envoie. Il y a eu cette maladie que j'ai, qui s'est déclenchée, enfin en tout cas qui a été diagnostiquée, elle était déjà là, mais qui a été diagnostiquée au moment où je commençais la rédaction. Alors donc je peux pas dire que c'est la maladie qui m'a poussé à écrire, mais quelque part d'avoir cette maladie m'a permis d'écrire, et d'écrire m'a permis, je pense, d'affronter aussi la maladie différemment. Donc ça m'a permis d'écrire parce que forcément j'ai été obligé de mettre un peu mes activités, non pas en sommeil mais un peu, disons, au ralenti. J'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour à occuper aussi, et où je voulais pas être en train de ressasser ma maladie, et donc ça a été des plages formidables pour écrire sereinement et tranquillement.
Si on parle de maladie, on parle de tes poumons qui vont mieux aujourd'hui.
Hein, qui vont mieux, merci.
Et puis on parle d'autre chose qui a à voir avec le livre, qui est une forme de maladie, en tout cas un empêchement. Les acouphènes. Mmh. Moi, je connais aussi. J'ai mon 747 qui décolle de temps en temps quand j'en parle, d'accord, quand d'autres m'en parlent.
Voilà.
Mais toi, tu as aussi des acouphènes. Et l'acouphène, par définition, c'est l'ennemi absolu du silence.
Exactement. C'est quelque chose avec lequel je vis, donc tu les connais aussi, ces bruits parasites, ces bruits virtuels hein, qui sont créés par nos nerfs et un dysfonctionnement des nerfs et une mauvaise interprétation des signaux envoyés par le nerf au cerveau. En fait, je vis avec depuis maintenant 33 ans et 34 bientôt. Et donc, j'ai appris, ce sont des compagnons de route. Comme tu dis, on a parfois nos 747 qui, ou alors c'est les cloches de Notre-Dame, ça dépend, parce que moi j'ai des acouphènes. Oui, j'ai des acouphènes, parfois ce sont des tintements, ce sont des sons plus aigus, puis parfois plus graves, etc. Donc je vis avec, ce sont des compagnons de route depuis 34 ans, qu'il a fallu apprivoiser évidemment. Au début ils étaient bien encombrants, bien gênants, c'était des lourds bagages à porter qui donnaient un peu envie de se cogner la tête contre les murs. Et puis après finalement... on s'est apprivoisé mutuellement, on vit très bien ensemble, mais effectivement la seule chose, je dirais, essentielle dont ça me prive, c'est le silence. Je ne connais plus, je ne connaîtrai plus jamais, je pense, le vrai silence, puisque même tu me mets dans un caisson totalement isolé phoniquement, et je vais quand même avoir ces bruits là et c'est aussi ce qui m'a conduit effectivement à réfléchir sur cette thématique.
Comment est-ce que... Alors, c'est la question du neurinome. Hein. On peut avoir des... Moi, j'ai pas eu de neurinome. J'ai simplement... je ne sais pas où c'est arrivé, mais bon, ça date aussi du milieu des années 90.
Un petit tumeur du nerf optique.
Absolument. Pour le reste, c'est une invention du cerveau. Et donc là, il y a une forme de paradoxe à écrire sur le silence. Pourquoi est-ce que par ailleurs, tu as cette dimension philosophique ? Parce que pour le coup, c'est un viatique, ce petit livre. Hein, quand je disais que c'était un livre de poche, s'il est dans la poche, c'est parce que ça me permet de temps en temps de réfléchir, de m'extraire de la réalité du monde. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'aller à cet endroit-là ? Ça aurait pu être aller sur la méditation, ce dont tu parles aussi, ça aurait pu être aller vers d'autres formes de réflexion ou de chemin de soi, mais là, pour le coup, c'était le silence. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà des acouphènes, au-delà des circonstances, au-delà de la temporalité de ce livre, le silence t'a toujours fasciné ?
Il est fascinant le silence parce que justement je pense que ça fait partie des rares conditions nécessaires à mon avis à une vraie réflexion. Alors réfléchir sur le silence, c'est une sorte de mise en abîme en fait, parce que sans le silence, et j'en parle assez longuement dans plusieurs chapitres du livre, sans le silence, on l'esprit est trop occupé, est trop interpellé, est trop sollicité pour avoir une capacité cognitive et une capacité de réflexion vraiment importante. Donc pour moi le silence, c'est un état que dont je suis privé et dont je pense que le monde en général est trop privé, et qui me semble au contraire un état qu'il faut réhabiliter, non pas pour en faire une apologie à 100%, parce qu'on en parle aussi dans le livre, il y a plein de silences qui sont mauvais, qui sont potentiellement destructeurs ou effectivement oppressants dans tous les sens du terme. Mais en tout cas, ça me semblait vraiment quelque chose à faire résonner aujourd'hui, à la fois en moi, puisque je ne peux pas l'entendre, ce silence, en tout cas le réfléchir, ça je pouvais le faire, et puis le faire résonner un petit peu dans ce monde où il est de plus en plus occulté et banni.
Paradoxal, disais-je tout à l'heure, nous sommes ici dans le silence d'un hôtel, donc j'imagine que les murs ont été insonorisés, mais il y a un silence qui est paradoxal, c'est le non-silence de la télévision. Alors je tourne toujours autour de toi, hein, tourne autour de ma proie, parce que notre ami Hervé, en annonçant le truc, a dit le fait versus Fontaine, ou versus Bataille, ou versus...
Bon. Sûrement pas Fontaine.
Bon. Faut jamais dire Fontaine.
Faut jamais dire Fontaine, etc. Non, mais pour le coup, la télé, et il y a un long chapitre consacré au non-silence de la télévision. Est-ce que tu as vieilli, toi qui es né en 1960? Est-ce que aujourd'hui tu as besoin de réfléchir à ce lieu qui t'a accueilli, ce lieu où tu es producteur, ce lieu où tu es animateur, où tu es journaliste, où tu es dans l'humanité du rapport à l'autre, comme je le disais tout à l'heure, et j'en redirai un mot tout à l'heure. Ce lieu, pourquoi est-ce que tu as besoin de... Alors je le dirais comme ça de manière un peu provocateur, de le désinguer un peu. Tu le désingues, pour le coup.
Oui, alors en tout cas, ce que je désingue, c'est plus que le lieu, c'est l'incapacité d'une grande partie des gens qui l'occupent à laisser dans ce lieu vivre un peu le silence. Parce que le lieu en lui-même, c'est un outil, on peut en faire, et tu l'as montré merveilleusement pendant des années, mille choses intéressantes, passionnantes. Mais de plus en plus, on a du mal, effectivement, dans ce monde des médias, et j'y ajouterai aussi la radio, hein, à la télévision, et de plus en plus les réseaux sociaux, à laisser vivre le silence. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est pas du tout une volte-face, je pense que c'est... Moi, je ne suis pas un enfant de la télévision du tout. J'ai grandi sans télévision ou quasiment, et plutôt dans les livres, dans la musique. J'ai eu la chance d'avoir un père. On aura tout à l'heure, je crois, mon frère musicien qui nous rejoindra. On a eu la chance d'avoir un père qui nous a, et une mère aussi, qui nous ont ouvert vraiment aux choses de l'art et de la culture.
Marie-Josée Bataille, voilà, psychiatre et psychanalyste.
Tout à fait. Et je ne suis pas du tout un enfant de la télévision. Mais cet outil, je l'ai beaucoup aimé et je l'aime toujours beaucoup. Simplement, et d'ailleurs, quand on a conçu cette émission avec La Vérité qui compte, après plein d'autres... Le silence y a trouvé sa part, et ça nous avait même valu une anecdote amusante avec les gens de TF1, puisque quand on avait livré la première émission, ils nous avaient renvoyé la cassette, c'était encore l'époque des cassettes, en nous disant: vous avez oublié de faire un montage, il y a une minute de silence où il ne se passe rien, et alors qu'il se passait justement les choses les plus importantes qui soient, c'est-à-dire des échanges de regards et d'émotions. Voilà, donc le silence, effectivement, je pense qu'au fil des années, dans ce que j'ai fait en télé, j'ai parfois essayé, mais pas systématiquement, mais j'ai parfois essayé de le faire vivre. Et je déplore effectivement que de plus en plus on en ait peur, et que de moins en moins on sache le faire exister. Dans tes émissions, dans d'autres émissions littéraires, par exemple, on sait faire résonner le silence après une phrase. Les bons intervieweurs, El Kabach en était un bel exemple, savait se taire après. Voilà, ils étaient pas, c'était pas des rafales de questions sans arrêt. Le silence, il est nécessaire dans notre outil télévisuel et ou radiophonique, et on ne sait plus l'utiliser, tout simplement.
Oui, en plus, il y a deux choses qui interviennent. Le Tout Info, que moi je conseille à mes étudiants d'écrire. FAUX, le Tout Un Fox, le Tout Un Info FAUX, ou les réseaux sociaux, plutôt que les réseaux sociaux, je dis les réseaux sociaux. C'est une forme de clin d'œil, mais un clin d'œil relativement critique. Et la deuxième chose, c'est le montage. C'est-à-dire que même si mes émissions étaient enregistrées, elles ont toujours été dans les conditions du direct, comme ce qu'on est en train de faire ici. Il y a certains de nos confrères qui font 7 heures d'émission pour avoir 2 heures particulièrement étonnantes, puisqu'on se dit, mais ces gens sont en permanence pertinents.
Dont un qui est décédé récemment, dont on saluera évidemment le talent, mais qui avait quand même effectivement cette manie de la coupe et effectivement qui dénaturait quand même, il faut savoir le dire, tout en respectant ce qu'il a été et sa mémoire, qui dénaturait souvent certaines de ses interviews.
Absolument. Je reviens sur l'émission que tu as évoquée il y a une seconde et que tu fais avec un compère dont il ne faut pas citer le nom, etc. etc. Y a quelque chose... J'ai regardé... Alors, l'intello, entre guillemets, que je suis, se dit « Waouh, c'est quoi cette émission ? C'est assez insupportable, c'est trop populaire, trop démago, etc. etc. » Et puis, quand tu fais attention... Et je sais que tu as une sensibilité à tout ce qui est psychanalyse, etc., donc du rapport à l'autre. Je trouve que tu as, dans cette émission, c'est ce qui m'a bluffé, Et c'est en ce sens que ça m'a bluffé autant que ta capacité d'écriture, en tout cas sur ce livre-là. Il y a une forme de distance chez toi que je n'avais pas repérée, mais que j'ai toujours sentie ou pressentie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es moins rigolo que celui dont il ne faut pas citer le nom?
je pense qu'il y a une part de nature, de caractère, qui fait que je suis peut-être déjà par rapport à lui, par rapport à Laurent Fontaine, dont on peut quand même citer le nom, bien évidemment.
Oui.
Plus introverti, plus réservé, lui étant plus exubérant. Il y a le fait que... on est un duo, justement, et comme dans tout duo, tout bon duo, contrairement à l'adage qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, un bon duo, c'est fait de deux personnes assez dissemblables qui partagent évidemment un certain nombre de valeurs et suffisamment pour cohabiter positivement. Mais on a souvent dit, enfin, un de nos premiers producteurs, avant qu'on se produise nous-mêmes, nous disait assez justement, vous êtes le clown blanc et l'Auguste. Donc, en fait, cette réserve que j'ai parfois, cette peut-être prise de recul qui peut me faire passer pour plus attentif ou plus attentionné, en tout cas, que Laurent ne l'est, et il faut aller au-delà de ces images, évidemment, elle est d'une part due à mon caractère et d'autre part due à une répartition des rôles, mais qui est naturelle entre nous. Et je pense que cette émission... On en reparlera ou pas, peu importe, mais on l'aime pas, elle laisse rarement indifférent. Je la défends, évidemment, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais elle ne serait pas, je pense, celle qu'elle est si ça a été présenté par une seule personne, voilà, s'il n'y avait pas ce duo. Je pense que la force, l'une des qualités de notre émission, très immodestement, réside aussi dans l'alchimie qui existe entre nous deux et qui fait que par nos deux personnalités, j'allais dire nos deux personnages, mais fondés sur nos vraies personnalités, rien n'est truqué, rien n'est, il n'y a pas de script, si tu veux. Voilà, on arrive à former une entité que les Guignols avaient très très bien caricaturé très méchamment, mais ô combien intelligemment, en nous décrivant comme un couple de siamois. Voilà, on forme une entité à deux têtes, avec deux personnalités. Et voilà, je pense que ma part de réserve, ma part de peut-être prise de recul et de distance, qui n'est pas du tout un désintérêt, mais voilà, façon d'exprimer mon humanité différente.
Voilà, une forme d'empathie, voilà, ce qui est intéressant.
Une forme d'empathie différente. Existe d'autant mieux que Laurent peut être dans l'humour et dans le côté un petit peu agité comme ça. Et de la même façon, le fait que je sois là, moi, à tenir un peu la baraque et à être dans l'empathie, lui permet de faire ses petites, comme dans le jazz, ses petites improvisations. Voilà.
Alors, je précise à nos auditrices, auditeurs, que de par le temps un peu orageux, on a eu des petites sautes de Wi-Fi au début. Donc, bien sûr, l'intégralité de tout cet entretien vous attendra en podcast de façon absolument parfaite. Mais excusez-nous pour les deux, trois petits blancs qu'il y a eu en début d'interview. L'essentiel est sauvegardé.
C'était des
messieurs.
Silences. C'est magnifique.
Exactement. Donc, le podcast sera bien sûr entièrement en place. Cher Philippe Lefebvre, cher Pascal, tu avais prévu quelques interruptions, j'ai envie de dire, silencieuses et ou musicales. Est-ce que c'est le moment de faire une petite respiration, peut-être, pour illustrer ton propos, ou nous n'en sommes pas encore là?
Non, on pourrait aller chercher Schubert, par exemple.
Ah bah oui, on va faire Chou Blanc alors. Non, on va faire Schubert. On a un petit quatuor à cordes numéro 12 que tu as essayé de retrouver, mon cher Brutal, et qui est un extrait d'une minute et quelques. Thank you.
c'est quand même très virtuose.
Ah, oui, oui, oui. Alors, question à Philippe et donc à Pascal ou aux deux. Pourquoi cet extrait déjà ?
Citons encore Berg et Mahler ou Webern, qui eux aussi avaient ouvert la voie à John Cage. Ceux que l'on a désignés comme les compositeurs de la seconde école de Vienne et qui sont, au début du XXe siècle, les précurseurs de la musique contemporaine, développent une notion de silence particulière, déjà esquissée chez Schubert. Dans le quatuor à cordes numéro 12 en ut mineur de ce dernier, par exemple, les silences entre les phrases musicales ne sont pas simplement des pauses, mais des moments de tension qui rendent l'expérience musicale encore plus poignante. Ces silences créent un espace dans lequel l'auditeur est invité à sentir et à réfléchir, un vide fertile qui permet à la musique de résonner plus profondément.
Extrait élu par Philippe Lefebvre du livre, donc évidemment, Le petit traité du silence.
Et c'est, bien,
du
et c'est bien le présentateur de télévision Pascal Bataille qui a écrit ça. Waouh,
hein, t'as vu ça?
Bon, alors ça illustre complètement ce que je disais tout à l'heure, Pascal, à savoir qu'on ne t'attend pas forcément là. Et en même temps, ça dévoile une partie de tes sensibilités culturelles, hein, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture. On parlera de Marguerite et de C'est forcément sublime tout à l'heure. Ça a même fait une émission de télé. On ça s'appelait pas forcément sublime. Si, ça s'appelait forcément sublime.
Forcément sublime. Oui,
t'as fait cette émission. Hein. Ouais, c'était radio ou télé ?
C'était télé.
C'était télé
sur Jimmy.
Bon, alors on va parler maintenant. On a fait un peu le tour, même si on reviendra de ta personnalité. Mais là, pour le coup, j'aimerais bien qu'on essaie de conjuguer le livre que tu as écrit. On a commencé par Schubert. Et le silence dans la musique. Et tu dis que le silence est aussi important que la note. Qu'est-ce à dire ?
Alors, il faut bien... Merci de dire qu'on ne m'attendait pas là. Je n'ai pas écrit ce livre pour être là où on ne m'attendait pas, mais...
Attendez, La pluie. La pluie. C'est un bruit qui casse notre silence.
Ouais. C'est beau. Oui, mais c'est un beau bruit.
C'est vrai.
Écoutez,
on l'entend.
C'est
là où on est content d'être dans le petit salon du côté sable et non pas dans la camionnette, je vous le dis.
Mais quand tu écoutes la pluie, il y a des silences au milieu des gouttes. Ouais. Et de la même façon qu'il y a des silences au milieu des notes. Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, je ne savais pas tout ce que j'ai écrit dans le livre. Un livre, bien entendu, est le fruit de choses que tu as en toi, de choses que tu ressens, de choses que tu sais et de choses que tu apprends en recherchant. Voilà. Et effectivement, pour le chapitre sur la musique, je me suis inspiré à la fois des choses que j'aimais, des lectures aussi que j'aimais, parce que ce moment sur Schubert ben, notamment été inspiré par mon amour pour Roland Barthes, qui a consacré un article passionnant à ce concerto et à Schubert. Voilà, donc je me suis beaucoup nourri, effectivement, et si ce passage paraît à peu près documenté et pas trop ignare, c'est aussi parce que j'ai un peu travaillé pour écrire. Mais je ne suis allé que vers les choses que je connaissais quand même, même si j'ai approfondi et je ne savais pas tout à l'avance, mais les sujets que je connaissais, les sujets que j'aimais, qui représentaient quelque chose d'important pour moi. Voilà, j'ai surtout pas voulu paraître cuistre et étaler de la culture qui n'aurait pas pu résonner à l'intérieur. Donc les artistes, les peintres que je cite dans le chapitre sur le silence de la peinture, Marguerite Duras, à laquelle je consacre un chapitre
qu'on
entier.
Écoutera tout à l'heure un petit peu.
Dans une chanson, Marguerite Duras ?
Non.
ou encore les artistes, effectivement, les musiciens dont je parle, ce sont des musiciens que j'ai beaucoup écoutés, fréquentés, ou... Pour certains, par exemple Berg, je n'aime pas, mais qui m'ont intéressé à une époque et que j'ai voilà. Ce chapitre sur la musique, il m'a été inspiré par cette phrase de Mozart. Est-ce qu'on peut trouver meilleure référence en la matière qui dit la musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence entre les notes. Et ça m'a semblé tellement cette phrase, elle m'a semblé tellement juste. tellement paradoxal en même temps, là, on dirait un oxymore, mais tellement juste et paradoxal à la fois. Elle m'a semblé résumer tout ce que j'avais envie de dire dans le livre sur tous les sujets. En fait, c'est que le silence, il faut aller le chercher là où on l'attend pas, et il faut aller chercher ce qu'on n'attend pas. Et on n'attend pas la musique dans le silence, on attend la musique dans la note, mais non, la vraie musique n'existe que parce qu'il y a le silence entre les deux notes.
Philippe le fait.
Ça te fait rien.
Non, j'adore, parce que je trouve ça. Non, mais pour le coup, ça me. En lisant ton livre, ça m'a ouvert. Enfin, j'ai quelques livres comme ça qui me servent de trousse de secours, et c'est intéressant parce que ça ouvre des espaces. Ça ouvre des espaces de réflexion. Et c'est ça qui est épatant. Alors, quel que soit... on sent chez toi un intérêt pour la musique, pour la littérature, etc. etc. Mais au-delà de ça, ça ouvre l'espace de la réflexion.
C'est l'idée,
oui. C'est de ce point de vue-là très universaliste, je vais dire. Hein. Chacun peut y trouver son miel. Hein.
Alors, merci de le dire, parce que c'était exactement le propos, et je pense le propos de la collection et le propos du livre en particulier. C'est surtout pas, ça n'a aucune prétention à faire le tour exhaustif d'une thématique et ni même de prononcer quelques avis définitifs sur le sujet, mais juste d'ouvrir d'entrouvrir des portes que charge à chacun de donner un petit coup de pied dedans pour l'ouvrir davantage et aller voir ce qu'il y a derrière.
Alors Philippe, je voulais juste dire qu'on a tous les extraits que tu as demandé.
Il ajoute ceci: l'iconoclaste compositeur John Cage considérait que le silence est une vraie note. Le silence est une vraie note, cette notion désignant pour lui l'ensemble des sons non voulus par le compositeur. John Cage qui a composé 4 minutes 33 de pur silence.
De pur silence, voilà. C'est mais ça. Dans lequel, effectivement, pour lui, la musique va être à la fois dans ce silence, mais à la fois dans les bruits parasites qui vont exister du fait du public, un petit raclement de chaise, un petit toussotement. Le morceau 4 minutes 33 de silence, il est... censé être interprété. Hein. Donc, je le dis pour nos auditeurs, le pianiste n'importe quel instrumentiste, mais le musicien est devant son instrument, il est censé même marquer les trois mouvements du morceau et par des petits mouvements de corps. Donc c'est une œuvre à la fois. Totalement, évidemment, dans la rébellion et dans la provocation.
On va vous la passer, d'ailleurs. Non.
Mais oui, mais on a tous les extraits, Philippe.
Mais
tous.
C'est une œuvre profondément...
Et là, on est en train de parler du pianiste. On l'a, le pianiste.
Intéressante.
On l'a, le pianiste. Il s'appelle Théolonius, même.
Ah oui, Théolonius. Bon, bien sûr.
On va écouter ça.
Extraordinaire.
Et puis il y a des blancs dans un truc rapide.
Exactement.
Ce ne sont pas des blancs, c'est un silence.
Oui, pardon, des silences.
Et ce n'est pas une interprétation par Monk de John Cage, évidemment.
Non plus. Oui, c'est QFD.
Vous avez quelque chose à ajouter, cher ami ?
Non, que j'ai encore tous les extraits que tu voulais à disposition, donc il me suffira de faire signe et on les envoie.
L'injonction et alors pourquoi est-ce que j'écris ? Bah oui, c'est ça, ça y est. Donc on puise, hein, on picore dans ton livre. L'injonction est triplement paradoxale, tout d'abord parce que dans l'imaginaire collectif, nous y reviendrons, la jouissance est synonyme de gémissement, voire de cri, et parce qu'un partenaire qui n'exprime rien est assez systématiquement considéré, et eux, comme n'éprouvant... aucun plaisir. Ensuite, parce que, suivant en cela les préconisations des magazines Elle et consorts, nous sommes récemment entrés dans l'ère de la démocratisation du trash talk. autrefois réservé aux amants exigeants ou aux amateurs de films porno, l'un n'empêchant pas l'autre. Les articles expliquant comment utiliser des mots crus en faisant l'amour foisonnent dans la presse comme sur le net, et même les plus prudes d'entre nous sont invités à s'y risquer au lieu de rester silencieux. C'est une autre forme d'atteinte au silence que vous évoquez dans un autre chapitre de ce livre. Alors, allons-y. Parlons de sexe, parlons d'amour, parlons de relation à l'autre. N'évoquons pas forcément la pénétration, mais pourquoi y avait-il lieu d'aller chercher aussi le cri de la jouissance ? Et ce que vous démontrez très bien, c'est que c'est beaucoup plus attendu chez une femme que chez un homme. Hein ?
Tout à fait. Pourquoi ce chapitre sur le silence de la jouissance ? Parce que je pense que d'abord il n'y a pas de sujet tabou, et dans l'amour, l'amour, c'est, il y a aussi un chapitre sur l'amour et sur le dialogue ou non dialogue entre deux êtres qui s'aiment et les silences entre ces gens-là. Mais dans l'amour physique, dans la relation sexuelle, érotique, de plaisir, le silence est convoqué également, et j'ai été effectivement interpellé, comme je le raconte, par le titre d'un article dans le magazine Elle, en l'occurrence, mais il aurait pu être dans plein d'autres, cette injonction à jouir en silence pour jouir plus fort. C'était le titre de l'article, et qui me semblait venir là aussi contredire totalement l'article de la semaine d'avant ou du mois d'avant qui disait qu'il fallait apprendre à dire des mots crus pendant l'amour. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on, dans ce sujet aussi comme dans les autres, la nutrition, le sport, la façon d'exprimer ses idées ou autres, on est soumis à des injonctions de plus en plus. Alors pourquoi faudrait-il se taire, pourquoi faudrait-il parler pendant l'amour, pourquoi on ne laisse pas les gens finalement faire l'amour comme ils le sentent et comme ils en ont envie, et un jour ça peut être très volubile et très expressif et très bruyant, et un jour très silencieux et très intériorisé. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à remettre en question au-delà de ça, et sans tomber dans du féminisme à tout craint, mais il y a quelque chose à remettre en question aussi sur notamment cette pression qu'on met sur la femme, nous, peut-être les hommes, et peut-être, je ne sais pas, dans les relations homosexuelles féminines que je ne connais pas dans l'intimité, à exprimer sa jouissance, la jouissance féminine étant évidemment beaucoup plus mystérieuse que la jouissance masculine et moins physiquement
visible.
Vous dites
ça parce que vous êtes un homme, cher ami.
Oui, évidemment. Mais une femme qui a du plaisir, une femme qui joue, elle doit le dire, elle doit le montrer, elle doit l'exprimer bruyamment. Sinon, effectivement, le ou la partenaire peut être déçu. Donc, voilà pourquoi ne pas aussi savoir faire régner le silence quand on fait l'amour, et ça peut être aussi merveilleux.
Deux remarques par rapport à ce que tu dis. La première remarque, c'est que dans ce qui est attendu chez le partenaire, quand il est féminin, il y a quand même 20 siècles de morale judéo-chrétienne et de patriarcat épouvantable.
Complètement.
Et est-ce que, alors, réflexion sur le livre et sa structure et sa construction, ce qui m'a trouvé intéressant, c'est que tu essaies d'être dans la juste mesure. On y reviendra après quand on parle de, par exemple, du sionisme, etc., ou de l'antisémitisme. C'est intéressant cette manière, parce qu'on se dit, mais voilà, donc il est pédago, c'est-à-dire qu'il repère par rapport à, initialement, ses plaisirs de lecture ou d'écoute. Et puis, en revanche, quand est-ce qu'il va choisir ? Autrement dit, tu ne choisis pas, mais... Quand j'évoquais tout à l'heure les chemins de soi que tu nous autorises et que tu nous permets, il y a des formes de réflexion qui sont intéressantes parce que tu nous indiques des chemins ou des pistes. Enfin, et par exemple ceci, hein, par rapport à la jouissance et par rapport au cri nécessaire de la partenaire, ce qui est une construction évidemment culturelle, tâchons de ne pas mourir comme Albert. Albert, c'est... C'est l'héroïne de Barbey d'Aurevilly, hein, dans le rideau cramoisi, oui. Bon, qui se tait tout le temps, alors que pour le coup, elle est en orgasme magnifique. Tâchons de ne pas mourir comme Albert, en silence et en plein orgasme, même s'il y a des morts moins enviables. Mais communiquons avec notre partenaire, expliquons que nos vocalises ou leur absence, ne sont pas toujours le miroir fidèle de notre plaisir. Détachons-nous du regard de l'autre, faisons l'amour pour nous. Moi, j'ajoute ici pas seulement, pas pour flatter l'ego ou rassurer, apprivoisons nos corps, nos lâcher-prise dans la masturbation et dans le couple pour gagner en aisance. Sentons-nous libres de vivre notre sexualité comme nous l'entendons, de crier, de gémir, de chuchoter, de souffler, de nous délecter en silence. Eh bien, forcément sublime. Marguerite Duras.
Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera.
Vous êtes bien sur Radio Cap Ferret, hein ?
Ouais. Alors c'est very good. Radio Cap Ferret, c'était avant, mais on n'a qu'à dire qu'on est dans la continuité.
Et simplement, je remarquais, j'avais pas entendu avant, mais on entend bien là ce qu'essaie de faire Pascal, c'est-à-dire nous faire écouter le silence. Alors, le silence dans le phrasé de Duras, on l'entend bien, mais on entend en fond, alors je sais pas, peut-être que c'est mon casque, c'est l'interférence de mon casque,
non.
Mais il y a un fond sonore sur lequel le silence ou les blancs de Duras attire forcément notre attention parce qu'à un moment elle se tait, donc immédiatement on a affaire à un univers qui est beaucoup plus large que ce qu'elle dit du surtourisme ou du temps. Il faut donner du temps au temps. Mitterrand, le grand pote de Marguerite, mais Cervantes avant Mitterrand. Hein. Donc, qu'est-ce que vous entendez de ce qu'a dit Marguerite Duras, comme je dis souvent? Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit?
D'abord, j'ai toujours adoré, au-delà de son écriture, j'ai toujours adoré la voix de cette femme qui, pour moi, encore une fois, est quelqu'un qui compte beaucoup encore aujourd'hui. Et cette voix, ce phrasé très particulier. Et ce que j'entends, c'est que quelque part, elle était oracle à sa façon, parce que
1985,
voilà, l'extrait. 1985, elle prédit. Alors, elle a peut-être pas raison sur tout, mais enfin, pas mal. Elle prédit pas mal des choses auxquelles nous assistons aujourd'hui, dans lesquelles nous vivons, et notamment cette surabondance de l'information, ce fait d'être noyé dans l'information, et cette aussi capacité, cette liberté qu'il nous reste quand même d'aller chercher une évasion dans le silence de la mer, de la contemplation de l'océan, qu'elle décrit si bien dans nombre de ses livres, aussi dans la lecture. Et je dis à la fin du livre, je conseille, parce que de temps en temps, tu disais tout à l'heure, Philippe, que je ne prenais pas trop position, j'ouvre effectivement des chemins quand même.
Moi, tu préfères ouvrir, j'oriente
sans sans affirmer ou sans...
Tu incites.
Sans, voilà. Mais effectivement, à la fin du livre, j'incite quand même beaucoup mes lecteurs et ceux qui ouvriront ce livre à retrouver le plaisir de la lecture que malheureusement, et sans jouer les vieux cons, réactionnaires et aigris, mais malheureusement, on n'enseigne plus à nos enfants, et que cette perte de la lecture, elle est pour moi terrifiante, parce qu'elle nuit à la fois à la capacité d'imagination, à la créativité, elle nuit à la possibilité de s'évader, elle nuit à la capacité de savoir bien écrire, et bien utiliser notre langue, parce que quand on ne lit plus, on ne sait plus orthographier et on ne sait plus quelque part penser. Et puis elle nuit aussi à nos capacités de ressourcer et de laisser justement. On ne lit bien qu'en silence, évidemment. Je crois même, moi, même si ça m'arrive fréquemment, mais je crois que on lit beaucoup mieux même si on ne sait ne pas écouter de la musique en même temps,
tendance qu'on peut avoir,
sauf John Cage.
et la lecture dans le métro.
Une question par rapport à justement à la question de l'observation de l'océan. Et tu vis à l'année au Cap Ferret ?
Oui.
Et tu te sers de l'océan ?
Oui.
Entre guillemets, hein, servir.
Bien sûr que je m'en sers, pas que de l'océan d'ailleurs, du bassin aussi beaucoup, parce que ce sont deux univers très complémentaires là encore, l'un plus sans dire des truismes, l'un plus tumultueux, plus fort, plus puissant, peut-être plus masculin dans le yang, et l'autre, le bassin plus calme, plus apaisant, plus serein dans le yin peut-être, mais donc en tout cas j'ai énormément et profondément besoin de cette présence de l'eau et de la mer. Quand ce n'est pas la mer, j'ai au moins besoin des fleuves, et pour moi par exemple une ville sans fleuve n'est pas une ville vivable.
J'ai toujours pensé que cette faculté à faire naître le silence dans ces textes entrait pour beaucoup dans le lien très particulier qui m'attache depuis l'adolescence à l'œuvre et à la personne de Marguerite Duras. Il y a de très longues années, en fac de lettres, j'avais rédigé un mémoire sur le thème « L'écriture du silence chez Marguerite Duras » qui gît sans doute au fond d'un vieux carton dans un garde-meuble. Mais je n'étais pas allé chercher très loin mon inspiration. Cette forcément sublime autrice, paradoxalement couronnée par le Goncourt pour L'Amant, alors qu'il n'est pas, à mon humble avis, son ouvrage le plus remarquable, a fréquemment évoqué sa fascination pour le silence, qu'elle a su si remarquablement faire vivre, aussi bien dans ses romans que dans ses pièces de théâtre et dans ses films. À part Marguerite Duras, dont on sent bien... pour laquelle on sent bien ton admiration. Quels sont les autres auteurs qui te retiennent ?
Ah, énormément. Évidemment, j'ai deux auteurs un peu cultes qui sont des auteurs contemporains tous les deux. C'est Marguerite Duras et à qui d'ailleurs j'ai dédié à chacun une chambre de l'hôtel, puisque toutes les chambres de Côté Sable sont dédiées à un écrivain. C'est donc Duras et Philippe Djian qui me... en tout cas, dans toute la... Les deux premiers tiers de son œuvre, je suis un tout petit peu moins en phase à titre personnel avec ce qu'il écrit depuis quelques années, mais dans les deux premiers tiers de son œuvre, me semble être un des auteurs français, en tout cas les plus talentueux pour faire se télescoper des mots, travailler le rythme de sa phrase pour faire jaillir des images absolument qui s'impriment vraiment dans ton cerveau comme si elle s'imprimait dans ta rétine. Voilà, donc Djian et Duras qui partagent la même initiale, mais après bon, je suis très très éclectique. Je relis de plus en plus de philosophie ces dernières années, pas du tout dans l'idée du livre, mais effectivement ça m'a aidé à écrire ce livre. J'aime beaucoup d'auteurs américains. Voilà, je suis pas très littérature française actuelle, à part mais il y avait par exemple chez Yourcenar aussi un amour du silence que j'aurais pu évoquer, l'autre grande Marguerite.
Non, il y a peut-être deux choses, mais ça c'est plus personnel. Parce que j'ai fait de la libre association. Mais quand tu parlais de Duras, je me suis dit, mais est-ce qu'Ernaud dans la comment dirais-je dans la dans la minceur de son propos, est-ce qu'elle évoque le silence ? Je me suis posé la question, je n'ai pas répondu. Je ne sais pas, mais Annie Ernaux dans
oui,
ce...
forcément. Et alors,
alors que ce n'est pas du tout le même registre. Ou Beckett, voilà. Beckett,
prix
Beckett,
Nobel de littérature.
Bien sûr, bien sûr. Mais oui, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Et, mais voilà, qui, que j'ai lu un peu, bah, mais qui ne m'émeut pas. Voilà. Mais qui a cette, aussi de,
sécheresse,
dans, cette, hein, voilà, dans cette raréfaction de l'écriture. On est à l'os, effectivement. Voilà, c'est faire, faire vibrer du silence et faire résonner ces mots dans le silence. Mais ils sont nombreux, Beckett aussi, dans le théâtre, bien sûr.
Et puis, par rapport à la littérature, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses que j'évoque ici. Ça peut servir à des gens qui peuvent aller regarder. C'est Pierre Guyotat. Alors là, c'est pour le coup, Pierre Guyotat, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est comme à la télé, le silence est insupportable. Donc, oui. Et en plus, c'est incompréhensible, mais il y a là une forme d'écriture qui est extrêmement déstabilisante et qui, de mon point de vue, est anti-silencieuse par rapport à notre discussion.
Je suis d'accord avec toi. Oui. Là, on est effectivement dans la profusion la plus totale. C'est une écriture quasi éjaculatoire et qui est fascinante, hein, qui est très belle aussi, assez incompréhensible, je suis d'accord. Un peu fastidieuse et fatigante, mais extraordinaire, oui.
Excusez-moi, il est impossible de couper un si bel élan, ce que je suis en train de faire. mais donc, évidemment, ce qui était prévu vers midi, midi 5, midi 4, c'est pas grave. Si on a le temps, on verra tout ça en fin d'émission. Mais pour l'instant, on continue largement ce que nous sommes en train de faire, évidemment.
Et sinon, je voulais parler de... Alors, j'imagine que vous ne le connaissez pas, parce qu'il est assez peu connu, pour le coup. C'est Marc Gatiano. Et en fait publié chez José Corti, etc. Oui, et Marc Gatiano a été éducateur pour des enfants en difficulté sociale ou psychiatrique. Et pendant ses temps de pause, il a lu le Littré. Et quand tu lis Gatiano aujourd'hui, pour le coup, on est blindé. Enfin, tu as été Henri IV, donc Cagne, Hippocagne, etc. Donc, et je ne peux pas lire Gatiano. Remarquablement écrit, pour le coup, et dans une forme traditionnelle d'écriture, mais je ne peux pas lire une page sans entourer un mot que je ne connais pas.
Ah oui,
ça c'est.
Connais le Littré.
Je ne connais pas, mais merci de la. Merci du conseil.
Si tu veux jeter un œil,
avec grand bonheur.
Incroyable. Complètement étonnant. Munch,
le cri.
Le cri. Alors là, c'est notre
peinture.
De ta dimension silencieuse.
Oui, alors j'ai exploré dans deux chapitres effectivement la capacité qu'a l'art pictural et qu'ont les peintres à faire vivre le silence et à l'utiliser. Et il y a un chapitre entier, parce que ça me semblait essentiel, sur cette fameuse toile qui s'appelle le cri d'Edouard Munch, ou Munch, on peut
prononcer.
Et effectivement, cette toile qui est assez connue et qui évoque, qui représente un homme sur un pont.
Les mains sur les oreilles.
Les mains, effectivement, sur... sur les oreilles, les paumes des mains sur les oreilles, avec un visage déformé par ce qu'on devine effectivement une sorte de cri d'angoisse terrible. Enfin, c'est une représentation extraordinaire et magnifique et donc évidemment très connue de l'angoisse et de la peur, mais de la peur intérieure, pas de la... Et cette toile, elle est extraordinaire parce qu'effectivement Munch a réussi à représenter ce qu'on sait être, enfin, quand on travaille un petit peu sur les choses de l'esprit, la psychanalyse, la psychiatrie, etc., le terrible cri qui peut être celui de la personne qui souffre intérieurement et qui est soumise à l'angoisse. Et ce tableau, il décrit aussi cette solitude formidablement, puisque derrière cet homme, il y a deux autres personnages qui marchent comme s'ils ne se rendaient compte de rien. Donc cette souffrance qui est exprimée dans ce tableau, qui n'est pas un tableau gai, hein, bien évidemment, mais en même temps, il y a les rougeoiements du soleil couchant magnifique, Et Munch raconte que cette toile lui a été inspirée par une scène qui lui est arrivée où, se baladant sur ce fameux pont, il a ressenti une terrible crise d'angoisse à un moment. Et donc, j'ai voulu évoquer dans ce chapitre le silence le silence de l'angoisse, cette difficulté terrible à exprimer l'angoisse et à la faire partager et à cette douleur infini qu'est le fait de ne pas pouvoir communiquer. Et donc là, en l'occurrence, le silence, il est plutôt quelque chose de néfaste. Hein. Et comme je le dis à plusieurs reprises dans le livre, le silence n'est pas en soi quelque chose de... ce n'est qu'un outil, c'est pas quelque chose qu'il faut adorer ou vénérer, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser.
Est-ce que, quand vous regardez cette toile, vous entendez un cri? Parce que moi, je n'entends rien, en fait. J'entends du silence en regardant ce tableau.
Oui, c'est
paradoxalement.
Voilà. Mais tu entends cette incapacité à, parce que dans ce visage déformé, effectivement, il y a pas de son. Tu n'imagines pas qu'un son est en train de sortir. Tu imagines juste effectivement que le son il est bloqué à l'intérieur et qu'il y a une sorte de vide terrible et d'incommunication. Pardon pour le néologisme.
On aime. Voilà. On aime parce que Philippe Lefay, il parlait d'intranquillité. Donc là, on est très bien.
C'est Pessoa qui parle d'intranquillité.
Oui. Tu reprenais.
Voilà, du coup, on reste sur la peinture, puisque Pascal, tu cites... Alors, simplement sur ce cri silencieux, je me dis que c'est... Quand je l'ai lu, et quand je connais les derniers éléments qui ont un peu interféré dans ta vie, je me disais que ce cri, c'est sans doute celui que tu avais éprouvé quand la maladie a la férocité du fauve.
Oui et non, je dirais, mais la question est évidemment tout à fait légitime. C'est le cri que je m'attendais à pousser, ou en tout cas à pousser intérieurement. Longtemps, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, ça m'est souvent arrivé d'imaginer... parce qu'on a tous des proches, hélas, qui sont malades ou qui décèdent, comment moi je réagirais à IS si on m'annonçait que je suis gravement malade. Et j'ai toujours été absolument convaincu que je m'effondrerais totalement et que je serais mort d'angoisse, tétanisé, paralysé, profondément déprimé. Et très étrangement, et je n'en tire aucune fierté, hein, encore une fois, parce que c'est... Ça s'est fait à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre. J'ai au contraire accueilli ce diagnostic avec une assez profonde sérénité, au point que ma chère belle-sœur, épouse de mon frère, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, Laurent Bataille, ma belle-sœur qui est radiologue et qui m'a fait un examen à ce moment-là, a dit à mon ex-femme qui m'accompagnait, mais il est totalement dans le déni, Pascal. Il se rend pas compte de ce qu'il a vraiment. Et en fait, si, je m'en rendais très compte, mais étrangement, j'ai accueilli ça avec un mélange effectivement de sérénité, de conviction que de toute façon se passerait ce qui devait se passer et que j'étais dans les meilleures mains possibles et que voilà, tous les efforts seraient faits et qu'à moi aussi de lutter de mon côté. Mais je n'ai pas vécu cette angoisse étrangement que je m'attendais à vivre.
Tu étais aussi tranquille, intranquille, on peut être à ce point ambivalent, que les personnages d'Edward Hopper, que tu cites aussi dans Les silences de la peinture.
Oui, parce que ce peintre qui fait partie effectivement de mon petit panthéon personnel concernant la peinture, cette fois, dans ses toiles, voilà, il fait aussi merveilleusement résonner le silence comme un peu une absence, pour le coup, ces personnages-là qui sont figés dans ces toiles, qui sont comme dans un temps suspendu, mais dont on sent souvent qu'ils sont un peu coupés du monde en même temps. Mais regarder une toile de Hopper, c'est entendre le silence.
Ou lire Duras.
Hopper, donc oui, un peintre américain, effectivement, qui était spécialisé, entre autres, dans des scènes de bar. Vous avez un type tout seul, assis au comptoir, par exemple, dans une ambiance à la fois tamisée, mais pas tamisée. Enfin, c'était assez incroyable, effectivement. J'ai quelques petits extraits. Alors, je sais qu'on est parti maintenant sur la peinture, mais tout à l'heure, on avait cité Webern, vous vous rappelez, et ça me paraît extrêmement significatif de ce que peut être le silence. Donc, si tu veux bien, histoire de faire un petit peu respirer l'auditeur, puisqu'on parle de choses très intéressantes, on va faire une petite pause et on va s'intéresser à donc cette auteur que l'on va appeler Webern. Écoutez, ça, c'est pas ce qu'on va mettre sur Very Good, je vous le promets, mais c'est intéressant. Comme dirait Laurent Bataille, ça manque de batterie.
Étonnant, non ?
Webern. Oui, alors là, on est à la limite de la musique expérimentale, quasiment. On est effectivement dans ces musiciens du début du XXe siècle, effectivement, ouais. ce qu'on a appelé la deuxième école de Vienne, mais sans vouloir absolument rassembler les gens d'ailleurs dans des catégories, parce que c'est toujours un peu caricatural, mais en tout cas, voilà, cette musique qui pour certains et beaucoup d'entre nous est à la limite de l'audible et du désagréable, en tout cas, utilise remarquablement le silence pour faire résonner les notes.
Pascal, moi j'aimerais bien deux choses encore, si on revient d'un mot sur la peinture. Tu as écrit, j'ai souligné, la Joconde se tait pour l'éternité. J'ai beaucoup aimé la formule et j'aimerais savoir pourquoi tu penses que la Joconde se tait pour l'éternité.
Eh bien, parce que pour l'éternité, je ne sais pas, peut-être qu'un jour elle va se réveiller, mais c'est ce qu'il me semble. Voilà, en tout cas, avec l'intelligence artificielle, ce ne sera pas compliqué, hélas. Mais en tout cas, bon, pour l'éternité, c'est ce qu'il me semble. Et ce silence, pour moi, il est. Et elle a dans ce sourire. En fait, cette capacité, c'est tout le talent de ce génie, pour le pop art, voilà, pour l'école. J'aime la couleur, j'aime ces explosions de vie et ces pétillances que nous donne le pop art. Et plus particulièrement, ces deux peintres, Liechtenstein, parce que il y a dans ces tableaux, dans tous ces tableaux, une sorte de nostalgie, une sorte de petite tristesse comme ça silencieuse, et que effectivement il a su utiliser le principe des bulles de la bande dessinée de la BD de façon incroyable, enfin que j'adore, et donc il rompt le silence qui semble inhérent à la toile, parce que il légende ces tableaux, mais là encore il nous emmène du coup dans une histoire, dans une sorte de relation entre le spectateur et la toile qui est passionnante. Et Wesselmann
Il fait quasiment l'inverse. Il rajoute de la musique.
Il rajoute du son, de la radio, de la musique ou des bruits sur certaines de ces toiles. C'est pas forcément celle que j'aime le plus du coup de Wesselmann, mais ce sont celles qui m'intéressaient dans ce chapitre, parce que voilà, il fait des tableaux bruyants, mais au sens vrai du mot.
Est-ce que je peux poser une question idiote, parce que ça fait une heure et demie que cette émission est intelligente et j'ai toujours pas fait de blague. Donc, est-ce que Wesselmann est un homme déconstruit?
Oh, pas mal, pas mal.
En tout cas, il a participé à la déconstruction de certaines choses dans son art, oui.
Et tu n'es pas, balèze en orthographe quand même, hein, parce que ça ne s'écrit pas pareil.
Oui, mais je vais mieux.
On disait que le calembour, c'est un pet de l'esprit. C'est pour ça que tu as été obligé de le sortir.
Merci, camarade, collègue. Ouais, non, mais écoutez, vraiment, on se régale dans cette émission. C'est magnifique. Tu avais prévu trois parties, de toute façon, donc on est
oui,
encore
mais
tranquille.
Je reste sur le livre, parce que j'aimerais bien qu'on ait... Enfin, deux couples que j'ai trouvés, c'est le niais et le sage. Donc la question du silence dans la conversation. Qu'est-ce qu'on fait du silence? Et puis la question du silence dans deux lieux qui sont les lieux où il y a initiation, c'est-à-dire qu'en général un apprenti, notamment en franc-maçonnerie, c'est quelqu'un oui. qui se tait, et en psychanalyse, pour le coup, l'analyste, que ce soit pas forcément Lacan ou un autre, l'analyste est plutôt taiseux. Donc il y a ces deux formes de silence qui sont intéressantes, parce qu'en analyse, on va chercher dans le silence le non-dit, pour le coup, et chez l'apprenti, on lui dit ferme-la, parce que de toute façon, si tu ne la fermes pas, tu seras toujours incapable d'apprendre.
Mmh. Oui, alors, ça, c'est vraiment... On m'a à plusieurs reprises demandé pourquoi j'avais fait ce chapitre sur l'apprenti, est-ce que c'était une apologie de la franc-maçonnerie, etc. Mais en fait, donc oui. j'ai le sentiment d'avoir sans doute mal écrit ce chapitre, ou d'avoir été... pas bien compris, parce que pour moi ce chapitre il est un des piliers essentiels du livre, parce que l'exemple de la franc-maçonnerie je le prends comme le socle vraiment de ce que j'essaie de démontrer dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on ne peut apprendre et devenir meilleur qu'en se taisant. Quand on se tait, il s'agit aussi, et là on l'évoque dans le chapitre sur la méditation, de même arriver à faire taire les voix intérieures et les pensées. Le principe de l'apprentissage maçonnique, c'est qu'effectivement le jeune impétrant qui vient d'être initié, pendant un an, voire deux, dans certaines obédiences, va se taire complètement. Et il n'aura jamais le droit à la parole, et y compris dans les débats qui se font, puisque dans les loges maçonniques, on travaille, on réfléchit, on échange sur des sujets, soit philosophiques, soit sociétaux, etc. Et donc l'apprenti n'a pas le droit de parler. Ce faisant, ça peut être au début très frustrant, mais petit à petit, un cheminement intérieur se fait et intellectuel se fait qui, forcé d'être dans le silence, conduit l'homme ou la femme en question à être obligé d'apprendre à écouter et, au-delà d'écouter, à entendre. Et à comprendre, et quand bien même il est ou elle est plus sachante ou sachant que celui qui parle, eh bien cette école de modestie et de retenue, je pense, c'est la base, ça devrait être la base, on devrait apprendre ça à nos enfants à l'école, voilà la base de l'apprentissage, mais au sens non maçonnique large. Du terme, au sens très large du terme, la base de l'apprentissage pour moi, c'est d'apprendre avant tout à écouter l'autre.
Peu à peu, pourtant, la frustration se mue en résignation. Je ne pourrais pas parler, alors même peut-être que j'en sais davantage sur le sujet débattu que la personne qui est en train de s'exprimer. Mais précisément, savoir que je n'aurai pas à prendre la parole m'évite d'avoir à chercher mes arguments pour imposer mes idées, pour prendre le dessus. Je me résous donc à écouter, non plus dans l'idée de répondre, mais seulement d'entendre et de comprendre ce qui est pensé et formulé par l'autre. Vient enfin la phase de transformation, une nouvelle forme de concentration et d'orientation de ma réflexion se fait jour. Je participe à un reparamétrage de ma conception du débat, fondateur d'une autre façon de penser, afin de donner naissance à une parole mûrie, étayée, plus tolérante, libérée de mes préjugés, certitudes et postulats acquis. Je m'émancipe de mon conditionnement à juger, interpréter, dévaloriser la pensée et la parole de l'autre. La discussion n'est plus une joute, mais un enrichissement mutuel. Je comprends que la sagesse ne réside pas dans la quantité de mes mots, mais dans la profondeur de mon écoute et de mon introspection.
Tu ne crois pas qu'on devrait envoyer tous les débatteurs de ces news faire un petit apprentissage, exactement. Un petit stage.
Exactement, c'est limpide cette affaire-là et la manière dont on peut s'en servir dans nos modes de fonctionnement, y compris nous tous, messieurs, dames, pardon.
Alors, à propos, il y a une rentrée littéraire très bientôt qui va se dérouler au Cap Ferret. Il y a 3 jours, on en parlera demain largement sur le programme, et puisque vous parliez de débatteurs de CNews, parmi les invités, il y aura le jeune Nathan Devers, pour information.
Qui
donc
Nathan Devers, qui est un des jeunes chroniqueurs
de Pascal Pro, c'est ouais, ça. Ouais. C'est la voix de la gauche, non, chez Pro, non, c'est pas...
Disons qu'il n'y va plus cette année.
L'analyse, le silence dans l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait avec sur le divan? Qu'est-ce qu'on fait avec le silence? Et comment est-ce que le silence est utile?
Alors,
que vous a dit votre père?
mon père, mais aussi mon expérience personnelle. Et puis la lecture de ces maîtres de la psychanalyse, que sont Freud, Jung ou Lacan ou d'autres, effectivement, m'ont modestement appris que le silence, me semble, contrairement à ce que certaines écoles différentes prétendent, me semble être vraiment le lit nécessaire de l'introspection et de la capacité à aller un peu au fond de soi et à laisser sortir les choses qui, dans le processus d'une analyse ou d'une psychothérapie, doivent sortir. Donc c'est Freud s'en est rendu compte sur sous l'injonction d'une de ses patientes qui un jour lui a dit mettez-vous, mais fermez-la parce que moi je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai. Voilà. Et en fait, c'est vrai que dans le silence de l'analyse, et là encore c'est plus l'expérience personnelle que le lecteur qui le dit, le silence de l'analyste met le patient, l'analysé, dans une position souvent un peu inconfortable, parce que le silence, il est dérangeant dans nos oui. mondes, dans nos sociétés aujourd'hui. Le silence, il fait peur, il est source d'intranquillité, comme tu le disais, voire d'angoisse pour certains. Et donc le silence de l'analyste, le premier réflexe de l'analyser, c'est de le combler absolument et de faire donc sortir des choses qui doivent, de ces choses qui doivent sortir jaillissent des accidents de langage ou de pensée qui permettent aussi sans doute d'avancer. Et au-delà de ça, petit à petit, on apprend finalement à laisser vivre ce silence, qui est aussi celui de la réflexion, de l'introspection. Et voilà, donc à ces deux niveaux-là, à la fois parce qu'il provoque l'accident qui va sans doute permettre la révélation, certaines révélations, et aussi parce qu'il permet tout simplement la sérénité de la pensée et puis de laisser passer parfois une minute avant de se précipiter dans une nouvelle phrase, une nouvelle confession ou une nouvelle observation. Il permet aussi à la pensée de mûrir et au cheminement de l'analyser de se faire tranquillement, voilà, au lieu d'être trop orienté, trop dirigé par quelqu'un qui poserait trop de questions et qui interviendrait trop fréquemment.
Lacan, Freud. Et une question que je voulais te poser, puisque apparemment tu es analysé.
Oui.
Et tu avais un père analyste, pour
oui.
le coup. Y a une question qui commence à être débattue un peu en France sur la psychanalyse et sur ce qui est à dire. Donc, comment comble-t-on le silence? Irving Yalom, grand psychiatre américain, 95 ans aujourd'hui, fait un dernier livre avec son fils et pose la question qui est beaucoup plus habituelle chez les psychiatres ou les psychanalystes américains, qui est: qu'est-ce que moi, analyste, puis-je donner à mon patient pour que l'échange et le transfert se fassent encore mieux? Est-ce qu'on doit être aussi taiseux que Lacan avec la technique de l'ascension, c'est-à-dire je dis rien et je peux me... virer le patient au bout de
30 secondes.
Qu'est-ce qu'on peut donner de soi dans un processus analytique, de ton point de vue ?
De mon modeste point de vue, hein, parce que aucune prétention à détenir un savoir là-dessus.
Disons que ta
là-dessus.
Curiosité
mais
par de, rapport voilà, à ce
je pense que quand même, il y a une grande importance dans le rôle de l'analyste. D'abord, je pense qu'il y a une première chose à donner, c'est un avis très personnel, c'est de l'empathie. Je pense que l'analyste, il doit véhiculer de l'empathie, même si c'est une empathie silencieuse. Voilà. Deuxièmement, il faut quand même qu'il ait... pour moi, le silence, il ne doit pas être absolu. Donc, il faut avoir une capacité de relance. Cette capacité de relance, elle est nécessaire d'abord parce qu'elle prouve l'attention. Et mon père lui-même me racontait que parfois il lui arrivait de s'endormir dans le processus analytique. On connaît effectivement ces anecdotes de psychanalystes qui roupillent pendant que le patient déblatère.
Parlera des coups de flottante.
Voilà, des coups de flottante, on va dire. Je pense que voilà, la relance elle est importante pour ça, parce qu'elle monte l'attention, mais aussi parce que, effectivement, et même Lacan le disait, l'accident, il faut savoir rebondir dessus et jouer un petit peu au ping-pong quand même avec l'analysé. Et puis la troisième chose, c'est que je pense que le rôle de l'analyste, c'est aussi de savoir peut-être à quel moment c'est terminé. Enfin, c'est terminé. En tout cas, le processus est arrivé à un moment où il faut savoir où y faire une pause, où y mettre un terme. Ça ne doit pas être, à mon avis, juste la décision de l'analysé et du patient.
C'est comme une peinture.
C'est comme une peinture.
Dernier coup de pinceau.
Waouh.
Ben oui.
Mais tu n'es pas rigolo, toi, du tout.
Pas du tout.
Bon. Le sage est celui qui c'était la question du silence dans la conversation, celui qui est sage. La question du mensonge, la question du non-dit, ce sera pour cette deuxième partie, ce sera peut-être ma dernière question, c'est-à-dire comment disait, oui, la doctrine des équivoques, hein, c'est chez les jésuites, tu as été élève chez les jésuites.
Oui.
Et donc, qu'est-ce que c'est que c'est... Est-ce qu'on dit tout ? Est-ce que le médecin dit à son patient que son cancer est de stade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? Est-ce qu'on ne le dit pas pour protéger la personne ? Parce qu'il y a quelque chose que tu centralises dans cette affaire, c'est la liberté. La liberté individuelle, et pour faire écho à ce qu'on venait de dire sur l'analyse, c'est la liberté du sujet. Et c'est intéressant donc de parler de sagesse, mensonge, etc. Pardon.
Oui, alors c'est un ou des chapitres qui m'ont demandé effectivement pas mal de travail, parce que on est sur le fil, on est dans l'équilibre sur ces sujets-là, mensonge, vérité, dissimulation, doit-on tout dire, etc. J'ai convoqué pour m'aider des grands noms comme Kant ou Nietzsche, etc. Mais pour finalement aboutir, et là j'ai l'impression quand même un peu de prendre position au fait que je ne pense pas qu'il y ait une morale universelle sur ces sujets-là, et que effectivement je pense que c'est à chacun de en accord avec sa morale personnelle et ses principes, de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et c'est valable pour le médecin aussi bien que pour la femme infidèle, ou pour ne pas dire une fois de trop et une fois de plus l'homme infidèle. Il y a aussi des femmes infidèles, puisque sinon il n'y aurait pas d'homme infidèle.
Parfois penser à appeler ta femme après l'émission.
C'est valable pour le...
Il y a aussi des femmes infidèles, sinon il n'y aurait pas d'homme infidèle.
Oui.
Waouh. Ça va réséroter socialement. Hein.
L'audimat remonte.
Il faut bien qu'il y ait des femmes avec lesquelles les hommes trompent leurs femmes. Et ces femmes souvent trompent leur mari. Donc,
ou ne sont pas mariées.
Il y a des célibataires aussi.
Oui, il y a des célibataires, mais bon.
Après, j'en connais. De celles dont tu parles, j'en connais.
Voilà. Une heure et demie de haut vol gâché en une seconde.
Oui,
Non, non, mais je suis convaincu de cet adage. Et aussi bien que le politicien, etc. Doit-on tout dire? Je ne crois pas. Comment définir ce qui doit être dit et ce qui ne le doit pas être? Eh bien, je pense que c'est à chacun de se référer à sa morale personnelle, sachant que... Un bon principe de vie me paraît être ne fait pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ou en tout cas accepte qu'il te fasse ce que tu lui as fait.
Eh bien, ça ouvre des perspectives.
Et sache pardonner.
Et donc, c'est intéressant parce que dans ce que tu essaies de définir comme juste chemin, si je veux dire, tu cites Oscar Wilde, qui considère que le mensonge, pardon, tu cites Oscar Wilde qui considère que le mensonge est le centre des relations sociales, hein. Et puis Kant qui dit il faut tout dire, ou Condorcet qui dit n'abusez pas le peuple, donc dites-lui tout. On n'y est pas, même en démocratie, même en démocratie qui ne sont pas illibérales.
Il faut aussi mentir à Billancourt.
Non,
c'était désespéré, Billancourt.
Désespéré.
Oui, c'est la même chose.
Ouais. Mauvais souvenir. Hein. On écoute Mozart. Ah, la franc-maçonnerie.
On y retourne. Allez, oui, parce que c'est abrupt. Nous, on est responsable du silence également sur Very Good Café Ré. On s'en prive pas. Nous sommes toujours avec Philippe Lefebvre et Pascal Bataille qui sont en train de mener un dialogue passionnant. Vedette anglaise, Laurent Bataille, moi-même et Brutal, écoutons presque religieusement ce qui se dit. Franchement, je suis très très heureux et très fier de pouvoir vous présenter cette émission. Donc vous êtes en direct, toujours sur Very Good Café Ré, et c'est la suite de l'interrogation, si j'ose dire, de notre ami Philippe Lefebvre qui parle à Pascal de son livre « Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants ». Et je suis très très fier d'avoir pu participer à cet entretien parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce livre dans beaucoup de médias, mais aujourd'hui c'est du haut vol.
Abrupt, soyons-le. Mais un individu élu ou non qui s'indigne des massacres en cours à Gaza et critique même avec virulence la politique de représailles et d'expansion israélienne n'est pas pour autant un antisémite. De la même façon que celui qui croit bon de dénoncer les effets négatifs d'une immigration non maîtrisée n'est pas systématiquement un raciste, non, qualifier Caroline Fourest de sexiste et d'antiféministe n'est pas la bonne façon d'être en désaccord avec son dernier livre dénonçant ce qu'elle considère comme les dérives du mouvement MeToo. Là, on est dans le dur.
On est dans... Oui, mais on est dans quelque chose qui me semble essentiel. Donc c'est tout un chapitre sur le politiquement correct en fait et sur cette chape de plomb qui de plus en plus pèse sur notre capacité à réfléchir, à analyser les choses, à les penser et à les dire, donc par définition, ou à observer le silence d'ailleurs sur certaines, puisqu'on voit aussi que certains se de plus en plus souvent se voit reprocher de ne pas être intervenu sur tel ou tel sujet, parce que maintenant l'indignation doit être là encore je dirais partagée par tous, et elle fait partie des attributs obligatoires de l'artiste comme du politique ou du citoyen. Donc voilà, je suis moi extrêmement inquiet, préoccupé par l'importance que prend le politiquement correct dans nos sociétés, et y compris dans nos démocraties ou pseudo-démocraties. Et donc, j'ai voulu, dans ce chapitre, alerter un peu là-dessus et sur cette propension à délivrer des anathèmes par le biais d'étiquettes diffamantes ou infamantes sur chaque parole qui est un tout petit peu dissonante ou un tout petit peu différente, et que, en fait, finalement, ce qui disparaît le plus aujourd'hui dans notre monde et notre capacité de dialogue et de penser, c'est la nuance. Et le silence, c'est aussi faire vivre la nuance. On ne sait plus être nuancé aujourd'hui. On n'a plus le droit, surtout, d'être nuancé. Dès que tu es nuancé, on te caricature forcément et on te remet dans une catégorie, pour peu que dans le cadre de ta nuance tu aies pris un tout petit peu position, mais tu es rangé au fin fond du placard adverse. Voilà, on ne peut plus être justement dans l'entre-deux. Effectivement, s'indigner de ce qui se passe, ce que moi je qualifie depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux de génocide à Gaza, peut-être un peu trop en avance. S'indigner du génocide à Gaza, c'est forcément être antisémite. Ne pas s'en indigner, parce qu'après tout, on peut avoir le droit de ne pas s'en indigner, c'est forcément être inhumain ou dénué de toute empathie.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, pour le coup, on enregistre cette émission ce mercredi, et c'est le jour où Benjamin Netanyahou écrit à Emmanuel Macron pour lui dire que ces condamnations de la politique israélienne à Gaza... Et c'est une forme d'antisémitisme. Mmh. Ou en tout cas, que ça favorise l'antisémitisme. C'est quand même là, pour le coup, au plus haut niveau du politiquement incorrect, c'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. Et c'est l'illustration parfaite de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on peut critiquer la politique d'un gouvernement, qu'il soit israélien et démocratique, sans pour autant être dans des logiques antisémites. Hein.
Mais ce qui est d'autant plus dangereux je ne connais pas M. Netanyahou, je n'ai pas une grande estime pour lui, mais pour le moins, je ne sais pas si c'est son but ou pas, mais ce qui me semble le plus dangereux, c'est que, disant ça, il est totalement contre-productif. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout l'inverse. C'est à mélanger en permanence, à assimiler en permanence israéliens et juifs, à faire penser et à laisser croire que ce que fait le gouvernement israélien, et qui était aujourd'hui inacceptable, innommable et injustifiable de mon point de vue, c'est nécessairement c'est rendu nécessaire par le fait d'être juif. C'est ça qui fait monter au contraire l'antisémitisme. C'est parce que, et heureusement que très tardivement, mais en mieux vaut tard que jamais, de plus en plus de voix de juifs du monde entier s'élèvent pour dire not in my name, pas en mon nom, c'est-à-dire que c'est moi juif, je m'élève contre le fait qu'on revendique qu'au nom de ma judéité ou de ma religion ou de mon peuple, on justifie ces massacres et ce génocide. Parce que si on dit ce que fait Netanyahou, c'est forcément ce que cautionne un juif, ben c'est comme ça qu'on fait monter l'antisémitisme. Et c'est pas le contraire.
J'ai une question sur... plus large là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, notamment dans les démocraties, même celles qui ne sont pas illibérales, il y a une opposition de plus en plus forte entre les élites et le peuple. Hein, confère les gilets jaunes, confère ce qui se passe aujourd'hui par rapport à un certain nombre de partis et d'organisations qui appellent à un arrêt de tout le 10 septembre, etc. Comment est-ce que, de ton point de vue, toi qui fais des émissions que je dis populaires, mais c'est encore une fois, c'est pas péjoratif, comment fait-on pour réintroduire de la complexité, de ton point de vue, dans ce
manichéisme.
Non, dans cette relation entre le peuple et les élites.
Ben, je pense que c'est de plus en plus, ça me semble de plus en plus difficile et en tout cas, c'est certainement pas la direction qui est choisie, ni par les uns d'ailleurs, ni par les autres. D'accord. Parce que la complexité, elle ne peut pas être à sens unique, donc il faut qu'elle soit assumée et souhaitée par les deux parties et que. Aujourd'hui, très clairement, c'est tellement plus simple de raisonner, encore une fois, par anathème, grande déclaration. C'est tellement plus spectaculaire, efficace et inintéressant à la fois, malheureusement, de faire de la polémique que de faire du vrai débat. Donc, aujourd'hui, cette complexité, elle disparaît de plus en plus. On a voilà, moi, pour moi, l'interdiction de parler, et c'est là que le silence, encore une fois, peut parfois ne pas être vertueux, là, oui. Parce qu'il peut être censure. L'interdiction de parler, qui est de plus en plus faite à l'ensemble, hein, on parle de cette cancel culture, c'est-à-dire que dès que tu as une voix dissonante, eh bien, tu es écarté, tu es banni, tu es honni, tu es mis au banc de la société. Eh bien, elle fait que si tu peux plus parler, petit à petit, tu peux plus penser. Tu t'autorises même plus à penser. Ou alors, tu penses, ça bouillonne tellement que tu favorises l'extrême, le terrorisme, l'extrémisme, etc. Et que si on n'arrive pas à réintroduire de la complexité dans nos débats, dans nos modes de pensée, y compris dès la plus tendre enfance, je pense que l'humanité en général, sans vouloir être trop pédant, mais l'humanité en général va se ruiner, enfin, marche court à sa ruine.
De l'intérêt de faire silence, et de ce point de vue-là, le silence devient un outil ouais. De sa propre construction intellectuelle ou idéale. Hein.
Où en sommes-nous, cher Philippe?
J'allais vous céder la parole.
C'est vrai. Alors, je vous propose.
Parce que vous avez un autre invité qui se trouve être le frère de l'autre.
Alors,
c'est
oui,
du népotisme. Si ce n'est... Ah voilà, je suis.
Exactement.
Et si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Alors, on va faire une petite pause. Je vais vous expliquer laquelle. Nous avons également envie et besoin de discuter avec cet office du tourisme de Lège-Cap-Ferret qui nous propose des podcasts courts sur différents sujets intitulés de les vacances autrement. Enfin, on va dire ça comme ça, les vraies vacances. Et là, aujourd'hui, on a un petit reportage qui a été fait sur l'ancien hôtel de la plage avec, on se rappelle, de Jeannine et Michou. Et ça aussi, c'est une petite plongée là, non pas dans le silence, mais dans le souvenir. Et donc, on va se retrouver un petit peu, nous tous, là, peut-être prendre un petit café. Pendant ce temps-là, je propose à Brutal de passer ce son qui concerne l'Office du tourisme et donc ce reportage qui avait été fait autour de l'hôtel de la plage, que l'on salue d'ailleurs, parce qu'ils sont nos partenaires, les nouveaux propriétaires maintenant. Mais là, on parle de l'ancien hôtel de la plage. Et puis après cela, on fera une petite page de réclame et on se retrouve pour finir tous ensemble, et notamment avec Laurent Bataille, qui, bien sûr...
Qui s'appelle Cyrus, en fait.
Qui s'appelle Cyrus.
Oui. Cyrus, c'est ton frère. Parce que Cyrus, c'est qui slave. Si slave, c'est qui se nettoie. Si se nettoie, c'est donc ton frère.
C'est ça.
Et attends, on va reprendre alors. Et l'Ave Maria, évidemment. Et Dieu dans tout ça, parce qu'il y a un chapitre sur le silence de Dieu, quand même. J'avais oublié de poser la question. Et c'est quoi le silence de Dieu?
Ah ouais,
c'est Pascal,
c'est Deus ex machina. Allez, on s'écoute le petit podcast. Enfin, il fait 8 minutes quand même, hein, donc armez-vous d'intérêt. Et puis après, deux petites réclames et on se retrouve pour le final avec Laurent Bataille et puis évidemment Philippe Lefay et Pascal Bataille. À tout de suite.
Les Escapades Sonores, des podcasts de l'Office de Tourisme de Lège-Cap-Ferret qui vous plongent dans les histoires locales et les moments authentiques que l'on partage avec les gens d'ici. Réalisé par Saison 5 et Vue du Cap.
On est super. super bien reçu.
C'était agréable de pouvoir avoir un endroit simple sans sortir du village pour nous.
On a un bateau de pêche nous ici, donc en plus on travaille un peu avec eux. Donc, pour le coup ils jouent le jeu, je trouve qu'ils prennent des huîtres à notre secteur ici, ils prennent du poisson à nous.
Puis ils restent ouverts à l'année.
Salut, c'est Monsieur Ducasse.
Je suis Patrick Ducasse, je suis un habitant de l'Herbe et je fais partie quand même vraiment d'une vieille famille du coin.
La première, allez.
Cet hôtel de la plage était initialement une cantine construite pour faire manger au personnel qui plantait des oyas dans les dunes en fin de 19e siècle. Et cet hôtel était tenu par une famille qui s'appelait les Garneux jusqu'en 1920. 1932, une dame et un monsieur qui s'appelaient Magne ont racheté cet hôtel. Le restaurant, c'était en fait une sorte de petite cantine. Et il y avait un bâtiment avec quatre chambres, une salle de bal, une petite épicerie.
Il y avait des étagères, les boîtes de conserve, les gâteaux secs. Les gens venaient chercher leur vin, ils tiraient la barrique. C'était très typique.
Monsieur Magne meurt, dont Madame Magne se retrouve toute seule. Donc là, de la famille à Sanguinet, et notamment des neveux, dont deux qui s'appellent André et l'autre Henri. André vient et aide sa tante. André s'est marié avec Madeleine. André fait venir son frère, Henri, à son mariage. Et Madeleine fait venir sa sœur, Marguerite, qu'on appelait Margot. Et voilà que tous les deux, ils tombent amoureux. Donc André s'était marié avec Madeleine et Henri avec Margot. Donc deux frères se sont mariés avec deux sœurs. Les neveux de Madame Magne ont eu des enfants. André et Madeleine ont eu Michaud et Jeannot, qui lui est resté pêcheur. Et Henri et Margot ont eu un garçon, Gérard. Michaud s'est marié et Gérard s'est marié avec une dame qui s'appelle Jeannine. Les deux cousines, Michaud et Jeannine, faisaient partie donc de l'équipe. Parce qu'on pouvait dire que c'était une équipe, les deux neveux, leurs épouses et leurs enfants ou alliés se sont retrouvés à exploiter ce même hôtel jovial et familial.
Et voilà, vous voyez les cachettes.
Je suis une fille Condou, Michel Condou, dite Michou, et habitant à l'Herbe, à l'hôtel de la plage chez Magne, où nous étions une grande famille.
Bon, alors d'ici, on voit l'hôtel de la plage, de la ruelle, où je suis née. Bonjour.
Devant l'hôtel, c'était toujours fleuri, ça c'était mon papa qui s'en occupait. Et mon oncle qui faisait le jardin avec les fleurs et les légumes, il montait dans la dune. Il y avait un chemin, il n'y avait rien. C'était content les clients de manger des affaires du jardin. On a toujours tout mélangé, il pouvait y avoir le président ou un ouvrier, c'était à la même enseigne.
Quand moi j'étais enfant, cette fenêtre-là, c'était justement la chambre de mon oncle et de ma tante.
Oh, Madame Magne, elle était en bas, les parents étaient en haut. Moi, quand je me suis mariée et puis avec les enfants, on avait des chambres. Hein. Les chambres qu'il y a de l'hôtel, c'était nos chambres et on vivait bien à l'hôtel. C'est-à-dire que notre séjour et tout ça, c'était la cuisine. Il y avait les chiens, il y avait les chats, il y avait les canaris. Et plus on faisait frire quelque chose, plus on faisait ça piaillait. Il y avait toujours des amis qui venaient. Et tout le monde, c'était à la cuisine. Donc on pouvait se retrouver à 15, 18. Voilà, tout le monde était pêle-mêle là-dedans. Alors voilà la cuisine. Alors on avait le fourneau qu'il y a là, c'était bois et charbon. Mais moi je l'ai connu quand j'étais enfant, le fourneau avec l'eau chaude. Donc même les voisins venaient pour baigner leurs enfants, ils venaient avec des brocs chercher l'eau chaude. Le soir charbon, il se trouvait là-bas. Et ici, les pignes, les galipes. À l'époque, on avait des galipes. La résine, alors ça, pour allumer le feu, c'était radical. C'était bien comme tout.
Au-dessus de la cuisinière, on avait des fils, on étanait le linge.
Oui,
les bonnes années où on a bien rigolé quand on a travaillé. Alors, Jeannine, ma cousine, moi, Michou, Martine, une employée, et Marie-Lou, la maman de Patrick Ducasse, qui nous faisait la cuisine. Et oui, Marie-Lou, elle m'a vu naître, hein. Cette Marie-Lou, un amour.
T'es là ?
Ouais. Bonjour, je fais un tendron de veau. Et puis je fais bouillir des endives. Là, je les fais bretter à côté du tendron.
Ah, je suis pas difficile, moi.
On m'appelle Marie-Lou. Autrement, c'est Marie-Louise.
Oh, moi, j'étais heureuse avec elle.
Mes deux copines, ça.
J'étais chez moi.
On était bien, on était une bonne équipe, quoi. Il y avait le beau-père à Jeannine. Il avait un jardin, il faisait venir des légumes. On n'a pas travaillé que sérieusement, parce qu'on a bien rigolé, quand même. Là où j'étais malheureuse, c'est quand Jeannine est décédée.
Ça m'a fait un chagrin.
Jeannine avait quand même une certaine gouaille. Alors que ça soit n'importe quel acteur, de leur parler comme si c'était le voisin d'à côté. Donc il y avait des moments, c'était assez cocasse quand même.
Jeannine avait la maison en face de l'hôtel. Mais on était très, très, très liés. Tout à fait différentes, mais on se complétait. On a bossé, mais quand on se mettait à table, il était 11h du soir, minuit, 1h du matin. On était quatre femmes, là, la rigolade. Aucun mari n'a travaillé avec nous. Ah, ça a été une histoire de femme, oui. Oh, ben, il vaut mieux, hein, parce que là-dedans, autrement... Non, ça a été une histoire de femme, ouais.
C'est chouette.
Ah, ben voilà. À Chambon 8, Jeannine et Michou, sur le balcon de droite.
Eh ben, c'est super.
Ça fait bizarre quand même, hein. Parce que nous, c'était simple. Bider lavabo, et au fond du couloir, il y avait la salle de bain. Alors, ça plaît, tu restes, ça plaît pas, mais tu t'en vas, hein. C'était comme ça. Ils essaient de rester dans l'esprit, mais je crois que c'est pas possible. Ça peut pas être nous. 50 ans à l'hôtel de la plage, c'est... Il y a des joies, il y a des pleurs, il y en a tellement de souvenirs que toute une vie, quoi.
Passionnante, n'est-ce pas, cette escapade sonore de l'Office de tourisme de Lège Cap-Ferret. Pour découvrir la suite, rendez-vous sur lège-capferret.com, rubrique blog. Publicité. Ceci est un communiqué Sispé.
Sispé est un pionnier des solutions de paiement en ligne, offrant une technologie financière innovante pour garantir la sécurité des transactions et la rapidité des paiements. Nous anticipons vos besoins pour améliorer votre rentabilité et alléger vos processus administratifs. De la réservation au check-out en passant par le check-in, le bar, le restaurant et le spa, optez pour Sispé pour gérer toutes vos transactions et consacrez-vous à ce que vous faites le mieux, accueillir le client et lui offrir une expérience inoubliable. Des centaines d'hôtels et de conciergeries à travers l'Europe nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous ? Pour plus d'informations, visitez notre site web et contactez-nous à l'adresse sispé.com.
La folie de l'e-foil. Glissez avec un coach sur le bassin avec cruise.fr. Vous réservez et vous volez sur l'eau.
Détente, raffinement, bien-être, soins du visage et du corps, massage, jacuzzi, hammam. Le spa Clarins de Côté Sable, c'est le plein de bonheur sur simple rendez-vous. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
Allez, de retour sur... non pas la Very Good Mobile, mais sur le Very Good Salon de Côté Sable, dans lequel nous nous sommes réfugiés par rapport aux orages et aux petites ondées qui avaient lieu pendant le direct. Direct qui, je le répète, a sans doute été perturbé un peu par des petites sautes de connexion. Ben, ça arrive quand on est au bord de l'eau. Mais le podcast, par contre, je vous le promets, sur la tête de Pascal Bataille.
Surtout sera, sur la mienne. Sera laisse Pascal tranquille, jure sur ma tête.
Parfaitement, sera intégralement à votre disposition d'ici quelques minutes. Donc, si vous avez loupé loupé malheureusement quelques petits passages, et ben vous avez tout à disposition dans pas très longtemps. Alors, on est toujours avec Philippe Lefay et avec Pascal Bataille qui nous ont régalé donc de ce dialogue ô combien intéressant. Et puis, ben, nous avons pour l'instant un jeune homme extrêmement sage appelé Laurent Bataille qui, effectivement, nous écoutait depuis le départ très, très sagement, mais qui mérite qu'on lui pose deux, trois questions. Alors déjà, bonjour Laurent. On ne s'est pas vu depuis un ou deux ans, voire peut-être même plus, alors que vous étiez un pilier de ce Cap Ferret Music Festival en tant que batteur, en tant qu'éducateur musical, en tant qu'artiste qui se produisait. Donc, quand est-ce qu'on vous revoit as soon as possible, déjà ?
Pas très silencieux, du coup. Mais en fait, ouais, pendant des années, j'ai participé à ça, et depuis le Covid, en fait.
Oui.
Ça s'est un peu arrêté. Et voilà, je trouve que moi, j'avais peut-être fait mon temps, 7 ans, tu sais, c'est le temps de réflexion.
De la sagesse.
Voilà, la sagesse. Ouais. Donc, bon, voilà, mais moi, je reviendrai volontiers.
Bon.
Mais du coup, c'est vrai qu'on est loin du silence, là.
Très bien. Alors donc, on va commencer par le commencement. Je vais être beaucoup moins brillant que Philippe Lefay, c'est évident. Pourquoi on choisit la batterie ? Parce que ce n'est pas a priori ce qui fait le plus serrer les gonzesses. Il est au fond du groupe, donc ce n'est pas forcément celui qu'on voit en premier. Et en plus, ça fait du bruit à la maison quand on s'entraîne.
Et c'est le dernier parti parce qu'il faut qu'il démonte tout son matos.
C'est vrai. C'est la raison pour laquelle Lester Young s'est mis au sax, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ouais. Et non, mais on choisit la batterie parce que je ne sais pas, ça pulse, c'est et parce qu'on a envie de, on a envie de faire du bruit, justement, et différemment après au fil du temps. Donc,
c'est un côté organique, quand même. Ça peut être un côté très organique, très
ouais,
direct.
Ouais, et puis c'est le cœur de l'orchestre, quoi. Ça reste, que ce soit en musique classique ou en rock ou en jazz, ça reste le cœur de tout l'orchestre, quoi.
Alors justement, pour être dans la technique, est-ce qu'on préfère les batteries neuves ou les batteries anciennes, ou en d'autres termes, est-ce qu'on préfère les vieilles peaux ?
Alors, les peaux animales en l'occurrence, ouais, mais non, les batteries anciennes, moi je suis très vintage comme gars, pour tout, mais puis parce que tout ce qui a été fait, créé, que ce soit, on parlait tout à l'heure de Liechtenstein et compagnie,
oui.
Tout ce qui a été fait, créé dans les années 50-60 est tellement beau que moi je suis un peu resté scotché là-bas, quoi.
On est bien d'accord. Toujours pareil, oui, vas-y.
Non, non, je te disais, on a encore un quart d'heure, en fait, puisque comme on a démarré un petit peu en retard, on a encore un quart d'heure, si on veut arriver aux deux heures.
C'est formidable. Alors, après, on est chez nous. On fait un peu ce qu'on veut. On est bien d'accord. Donc, Laurent Bataille, il appartient toujours à des groupes. On continue à la fois enseigner, parce que ça, je sais que tu as un poste d'enseignant à Bordeaux, c'est ça ?
Oui, tout à fait, à Bordeaux et à Paris, oui. dans les deux CRR et conservatoires. Et du coup... bah ouais, maintenant que je suis devenu un peu sage, je transmets le bâton,
ouais.
On va dire, et j'apprends mes élèves, parce que je suis quand même vachement concerné par le livre de Pascal. J'apprends mes élèves, à mes élèves l'importance du silence, justement.
En batterie.
En tout. Mmh. Alors d'ailleurs, Pascal parle du percussionniste qui suspend son geste, mais en fait,
ouais.
Le percussionniste, lui aussi, est obligé d'arrêter la résonance, sinon... Mmh. Sinon ça
du gros
bah oui, comme l'archer s'arrête, effectivement le guitariste ou bassiste arrête ses cordes, mais si le percussionniste il arrête pas sa peau ou sa cymbale, ça vibre beaucoup quoi. On n'a pas on va dire c'est très compliqué de relier chaque coup à une note, parce que une noire ou une ronde, Pascal parle des rondes, des noires, des silences qui équivalent à ses valeurs, mais en fait c'est très compliqué la batterie, justement, en termes de silence. T'as raison, non pas de manière très basique, évidemment que la batterie fait du bruit, mais c'est très dur de faire un silence à la batterie, en fait.
On est d'accord. Après, il y a aussi quelque chose que j'ai vu dans une de tes interviews. Tu expliques finalement à des jeunes gens lors de masterclass que on n'est pas en contact direct avec l'instrument, qu'il y a la baguette qui est le vecteur entre le musicien et l'instrument, et que ça change en fait la perspective du jeu aussi.
La baguette ou le balai ou la maillotche ou la main, la main du coup est le plus fidèle transmetteur du geste, mais la baguette, effectivement, ce qui est le plus commun. C'est comme l'archer ou on va dire c'est assez rare, sinon l'embouchure va directement dans la bouche et le doigt va directement sur le clavier,
ouais.
Et la baguette, la tenue de la baguette elle-même, va donner un son totalement différent, tu vois.
Il a fait une espèce de démonstration. Alors, c'est compliqué à décrire radiophoniquement parlant, mais tu expliquais à des jeunes gens. En fait, tu te mettais debout, tu attrapais la baguette d'une certaine manière le long du bras, et qu'en fait, il fallait rester le plus souple possible. C'est-à-dire que c'est une sorte de position qui permettait à la baguette, finalement, de ne jamais être tenue fermement.
Alors, souple, c'est un mot très dangereux. D'ailleurs, il y avait un kiné ce matin chez Pascal, et les kinés, j'ai fait la préface d'un bouquin sur l'anatomie du batteur. Ouais. Et souple, le gars me disait, c'est pas un bon mot, souple. Il faut pas être souple. Il faut être tenu, en fait. Et en fait, ce que je montre, c'est juste l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts, qui, s'ils sont raides, vont générer un geste raide.
D'accord.
Effectivement, il faut avoir une certaine fermeté, parce que sinon, si tu es dans la souplesse, tu n'as plus aucune précision.
En fait, il faut avoir une tenue, et dans le geste, une rapidité qui est précédée par un silence.
On a cité beaucoup de références dans l'entretien précédent entre ton frère et Philippe Lefay. Qui est, selon toi, en tout cas ton maître, qui est pour toi le grand batteur référence?
Oh là là, mon pauvre. C'est pas possible de répondre à cette question. Il y en a trop, mais
3 ou 4 alors.
Voilà, il y en a un qui vient de mourir, qui avait 99 ans, qui s'appelle Roy Haynes, qui était un... Donc Roy comme roi, héros Y, et que j'ai interviewé 2-3 fois d'ailleurs pour Jazz Mag ou Batter Mag. Et j'avoue que ce gars-là a fait toute l'histoire du jazz. Il a commencé avec Louis Armstrong, et il a fini avec Chick Corea, Pat Metheny et compagnie. Donc il a fait pratiquement 100 ans de jazz à lui tout seul. Et voilà, s'il y en avait peut-être qu'un à garder, ça serait lui, parce qu'il est totalement atypique, il a été leader, il a été incroyable.
Alors, Philippe Lefay, tout à l'heure, ricanait lorsque notre ami Pascal Bataille était en train de s'empêtrer dans les histoires de patriarcat, mais il vient de m'envoyer un petit message à sujet de la souplesse, qui était souple au lait. Ah. Tu vois, donc je pense qu'il est lui aussi totalement détruit pour la fin de cette émission.
C'est contagieux à chaque fois, c'est toujours contagieux.
C'est ça, Hervé, sort de ce corps.
Écoute, en tout cas, moi je tenais à dire que le chapitre consacré à la musique, non seulement Pascal, il écrit vraiment magnifiquement bien. Et en commençant le chapitre, ça commence par une citation de Mozart, et je me suis dit, s'il ne cite pas Miles, s'il ne cite pas John Cage et s'il ne cite pas Monk, ça ne va pas. Non. Et il a cité les trois. Donc, non seulement je n'aurais pas mieux fait parce que je n'écris pas aussi bien, et en plus, il a, au fil du texte, cité les trois personnes qui sont les. Miles, évidemment, ça coulait de source. Mais après, voilà, le seul petit truc, voilà, on aurait peut-être dû se parler avant pour le geste du percussionniste, de manière
à ce que. C'est vrai.
Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Steve Jordan, qui est un grand, le batteur actuel des Stones, qui le montre dans une vidéo où il dit que si on n'arrête pas le son, le son d'une timbale, il dure, mais.
Éternellement.
Voilà. Et pour comprendre justement l'espace entre deux notes, il faut l'arrêter, le son, parce que sinon.
Voilà. Comment Philippe Lefay, Mozart est là. Non, arrête maintenant.
Si, la musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence entre les deux.
Voilà, langues, c'est ça.
Évidemment.
Exactement.
On est d'accord. C'est compliqué comme ça, évidemment, de passer d'un débat, j'ai envie de dire, presque philosophique ou même carrément philosophique, à revenir un petit peu à la vie. Mais à propos de la vie, justement, des concerts, c'est quand même vital pour un musicien, ce contact avec le public. C'est bien d'enseigner, c'est certainement génial, la transmission auprès d'élèves ou de jeunes gens. Mais en même temps, on veut aller frotter aux gens.
Ah ouais, moi j'ai encore besoin des concerts. Et tu sais quoi, j'y pensais tout à l'heure en lisant un peu, en vous écoutant. Je pense qu'un des moments les plus émouvants pour un musicien ou une musicienne, c'est le moment entre l'arrêt et les applaudissements, en fait. Et ce truc-là, je pense qu'on est tous un peu égocentriques, hommes de télé. Ou
besoin d'amour.
Oui, mais tu vois, je pense que la récompense des applaudissements. Et ce petit moment juste avant l'arrêt, parce qu'en musique classique, il y a des codes, t'applaudis pas avant la fin du mouvement, parfois avant la fin des trois mouvements. Mais en jazz, ça peut être après un solo.
Ouais.
Et après, c'est quand on vient, le groupe devant, et saluer. Et là, il y a un moment où il n'y a rien, et les gens applaudissent. Et d'accord. Là, tu vois, c'est ce cette nourriture là dont tu parles peut-être, dont on a, dont j'ai encore besoin d'accord. un peu. Mais honnêtement, voilà, le concert, les tournées, j'ai beaucoup beaucoup donné et c'est voilà, je joue maintenant pour me faire plaisir. Quoi.
Tu as une formation en ce moment?
Je joue avec tout un tas de gens qui aiment encore m'appeler, d'accord. qui aiment
donc
encore jouer
guest,
avec moi.
Quoi. Tu tournes
voilà,
avec différentes
formations. Et, ouais, ouais. et maintenant, mon plus beau cadeau, c'est surfer, en fait. Donc, tu vois, je vois des
ah
photos
oui.
de surf autour de moi. Donc, j'ai des, l'improvisation de la glisse. Voilà, c'est...
Ce moment dont tu parles, justement, qui est suspendu juste avant les applaudissements, il est a priori similaire pour moi à celui qu'attend le joueur. Parce que le joueur, les études ont montré que ce n'est pas le résultat qui le fait monter, mais c'est juste avant que la bille s'arrête.
D'accord.
Le résultat, il s'en fout, ouais. en fait.
Tu vois, dire dans les casinos.
Dans les casinos, voilà.
Le joueur,
qui perd ou qui gagne, le pic d'adrénaline, c'est au moment où la bille va s'arrêter.
Ouais.
C'est un petit peu
comme l'escalier avant l'amour.
C'est ça, exactement. Alors, vite fait, parce que c'est quand même très important et on ne peut pas occulter ce sujet-là non plus. Je me retourne à nouveau vers Philippe, dont on sait bien sûr qu'il a animé, je le disais, les espaces culturels de la télévision pendant de longues années. Il était un des derniers bastions d'intelligence, notamment sur le service public. Non, ne faites pas le modeste, monsieur. C'est la vérité.
Tu pratiques le violon.
Rapidement. Tu fais quoi depuis que tu as arrêté la télévision? Et puis, parle-nous, bien entendu, de ce poste récent d'administrateur du groupement national de coopération d'handicap rare dont tu viens d'accepter la charge.
Je fais quoi? Je suis toujours journaliste. Je vais piger pour vieux.
D'accord. Donc vieux.
C'est le magazine de Decaune.
Oui, absolument.
C'est le magazine d'Antoine Decaune.
Absolument.
C'est cool.
Et puis donc j'avais fait une série sur les métiers des coulisses du spectacle vivant. Donc ouais. Je pense qu'on va essayer d'en refaire une deuxième saison. Comme on parle aujourd'hui. Et puis sinon, très engagé effectivement dans le handicap. Et voilà, j'ai repris l'administration du GNCHR, qui est le Groupement National de Coopération sur les Handicaps Rares.
Oui.
L'idée de cette petite structure d'une dizaine de personnes, dont la tutelle est les ministères de la Santé, c'est de trouver les solutions les plus intelligentes possibles et les plus utiles possibles aux personnes en situation de handicap.
Voilà, donc on sait bien sûr que tu l'as été toi-même, tu vis au quotidien cette situation, tu préfères parler de singularité que de handicap et effectivement depuis la naissance de Lou, tu as eu affaire à des systèmes, j'ai envie de dire généraux, qui prenait pas vraiment en compte la particularité de ta fille. Et c'est un petit peu ça qui forcément t'a ouvert les yeux sur la problématique. Et depuis, tu as écrit un livre sur le sujet. Et encore plus loin maintenant, tu essaies de faire adapter finalement la société au particularisme.
Ce qui se fait de... Enfin, disons que la visibilité... je ne parle pas de l'accessibilité, mais la visibilité des situations de handicap est de plus en plus évidente, notamment à la télévision. Ça, c'est plutôt très bien. La mise en œuvre des politiques publiques, quelle que soit l'intention, est beaucoup plus pesante et lourde et difficile qu'on imagine.
On a
des périodes de restrictions budgétaires épouvantables.
Évidemment. Pascal Bataille, on a un rendez-vous à nouveau. Alors, les gens vont peut-être dire encore lui, mais oui, encore lui, parce que samedi, tu vas faire quelque chose de très, très important devant la Maison de la Presse. Tu vas signer ton bouquin, mais pas que. Tu seras avec Lorraine Vivier. Donc, j'aimerais aussi, bien sûr, qu'on parle de Lorraine et de Larsla.
Oui, moi, la signature de mon livre, c'est relativement anecdotique. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, à côté de moi sera Lorraine.
C'est anecdotique, sauf que les droits du livre sont tous pour l'Arsla,
oui,
bien
voilà,
sûr.
Les modestes droits d'auteur iront à l'Arsla. Et l'idée étant, en fait, non pas de ramener des milliers, parce que tu te doutes bien qu'un livre, des milliers d'euros, parce que tu te doutes bien qu'un livre ne génère pas des recettes, des droits d'auteur très conséquentes, mais l'idée est que chaque fois, effectivement, je puisse parler de l'Arsla en disant les droits d'auteur vont à l'Arsla. Bon, c'est quoi l'Arsla? L'Arsla, c'est donc l'association de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, autrement appelée maladie de Charcot, dont je suis l'un des ambassadeurs et au titre duquel notamment j'accompagne depuis plusieurs années mon amie Lorraine, que beaucoup de Ferré-Capiens connaissent, puisqu'elle elle aime bien venir ici et même si c'est de plus en plus difficile pour elle, malheureusement, de se déplacer. Elle sera donc là pour signer son livre samedi de 11h à 13h à la Maison de la Presse, boulevard de la Plage. Son livre qui s'intitule « La vie est belle et c'est là ». Très joli jeu de mots qui est aussi le titre de son compte Instagram. Très joli jeu de mots sur SLA, sclérose latérale amyotrophique. Et « Et c'est là, la vie, tente-la, joue-la voilà.
Et puis bats-toi, et puis crois-y.
Voilà, crois-y. Donc Lorraine sera là pour signer ce livre et ça sera l'occasion, effectivement, en achetant le livre, de faire une bonne action, puisque également les droits d'auteur du sien, bien évidemment, vont à la recherche sur cette maladie encore aujourd'hui incurable, ce qui est forcément quelque chose d'inacceptable en 2025, à l'heure où on s'apprête à envoyer des gens sur Mars, qu'on ait encore des maladies qui sont incurables, et une maladie particulièrement cruelle, puisqu'elle enferme petit à petit les gens dans leur corps avec une tête qui fonctionne en revanche toujours à 100%. Voilà.
Exactement. Donc vous l'avez compris, samedi à partir de 10h, il y aura la signature conjointe de Pascal et Lorraine pour leurs deux livres respectifs, dont les deux bénéfices partent bien sûr à la recherche et à l'association pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique. Donc évidemment, tous les gens qui nous écoutent relaient s'il vous plaît cette information sur leur propre réseau, car au-delà, et ça je le dis avec sincérité, de l'argent et de la signature et du succès de l'opération, c'est aussi une solidarité envers Lorraine. C'est-à-dire qu'une personne qui forcément, même si elle est extrêmement courageuse et magnifique dans son combat, elle doit quand même avoir des moments de solitude, de peur, d'angoisse, forcément. Eh bien, en tout cas, venons la nourrir aussi. Apportons ce jour-là notre présence, notre sympathie, au sens grec du terme, sympathos, souffrir avec. Et puis, soyons tous ensemble auprès d'elle. Je pense que ça aussi, ça peut participer à son bonheur.
C'est important, oui, ce que tu dis, parce que Lorraine, depuis qu'elle sait qu'elle est malade, ou en tout cas à peine quelques semaines après l'annonce de son diagnostic, a décidé de vouer tout le temps qui lui restait à faire connaître cette maladie, à se battre pour aider à la recherche et effectivement faire prendre conscience au grand public qui connaît mal cette maladie de la nécessité de donner et d'aider, et aussi d'accompagner, parce qu'on ne parle pas assez de l'aide aux personnes malades, comme d'ailleurs aux personnes en situation de handicap ou de particularisme particulier, mais voilà, il y a aussi tout le rôle des aidants qui est ô combien compliqué, ô combien lourd parfois, et auquel on pense peu. Et donc, c'est vrai que pour Lorraine, une influence samedi serait le signe que son combat est Exactement. Utile, que son combat sert à quelque chose, et que tous les efforts qu'elle fait, parce que je le redis, c'est de plus en plus difficile pour elle de se déplacer, de bouger, et venir ici, c'est un grand effort. Oui. Voilà, tous les efforts qu'elle fait, ils servent à quelque chose.
Très bien, voilà, donc c'était un premier rendez-vous. On va conclure bientôt cette émission, mais on va encore une fois remercier infiniment Philippe, Pascal, et puis également Laurent d'être venu pendant ces deux heures-là, nous apprendre des choses, nous faire vraiment quelque part progresser, parce que perso, quand j'écoute ça, je me sens plus intelligent. Ça ne dure pas longtemps, mais je me sens plus intelligent. Alors, on va peut-être conclure avec nos deux derniers invités. Philippe, est-ce que tu as des rendez-vous ? À part accepter les remerciements qu'on te fait très sincèrement maintenant, est-ce qu'on peut aller te retrouver quelque part ?
Non, j'ai rendez-vous chez le kiné cet après-midi.
D'accord. Formidable. Tu n'as pas un jury. Là, j'ai vu que tu avais été à Saumur il n'y a pas longtemps avec des grands noms pour juger de romans. Enfin, tu continues ce genre d'activité aussi.
Oui, ça m'arrive. Effectivement, oui. Non, j'ai un... Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois être le laudateur d'un grand ami à Strasbourg au mois d'octobre. Ce que je ne sais pas. Et au mois de novembre, il y a les journées nationales du handicap rare à Strasbourg. Bon. Voilà.
Très bien. Tu sacrifies à la mode des réseaux sociaux ?
Pas vraiment.
Donc pour te suivre, il faut t'appeler. Quoi.
J'ai encore des menus nuit. Non, j'ai un compte perso sur Instagram, mais c'est simplement de la photo. Je fais de temps en temps un peu de photos.
Bon, pas mal.
Avec un mode minuit afférent.
En tout cas, merci infiniment de t'être prêté au jeu, d'avoir vraiment plus que bien lu ce livre et bien questionné Pascal à ce sujet.
Merci beaucoup, Philippe, vraiment.
Vraiment sympa, Pascal. Merci de l'avoir écrit. Merci de nous recevoir ici. Laurent, un rendez-vous bientôt. T'es guest sur un concert bientôt.
Non, moi j'ai rendez-vous avec mes élèves au Conservatoire de Bordeaux. Il y a 100 élèves qui vont venir auditionner, tu vois, qui rêvent de profiter du service public.
Ouais.
Et des merveilleux profs qu'il y a dans les conservatoires. Tu vois.
Et vous en gardez combien sur 100 faites des promos? Ouf,
très peu, parce que service public oblige, il y a très peu d'heures, très peu de moyens, et donc parfois il y a 40 chanteurs et chanteuses qui viennent, on en prend une ou un. Ouais.
D'accord.
Donc c'est en gros, s'il y a 15 batteurs qui se présentent, on en prend un.
Wow. Mmh. Ah oui.
Et donc en tout, il y a 100-110 personnes qui se présentent, on en prend très peu. Quoi.
Bon. Mais bientôt, grâce à Rachid Adati, tu vas pouvoir enseigner la batterie dans les campings. Oui,
dans les campings, absolument.
Ouais.
Ouais. Ou la fellation est le cri.
Ceci n'est pas une pipe.
C'est ça, ceci n'est pas une. Ok, bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux, je le répète, qui nous ont écoutés, qui de temps en temps ont subi des petits désagréments auditifs, c'est parce que le réseau, voilà, un peu l'orage, on est en plus en intérieur, donc c'est pas tout à fait aussi facile que d'habitude, mais peu importe, le podcast sera nickel, il sera disponible dans pas très longtemps, et vous pourrez réécouter cette émission dans son intégralité, et faites-le parce qu'elle était vraiment géniale. On va remercier aussi, on a une nouvelle fan depuis 2 jours, une Vivi là qui au départ semblait vouloir 1 euro, mais pas du tout, en fait elle est assise pour plus de confort, et donc on la remercie d'être venue passer ces 2 heures avec nous. Philippe, Pascal, Laurent, Brutal, merci beaucoup à toutes et à tous.
Merci
à demain.
Hervé. Merci Philippe.
Voilà, bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'hôtel de la plage vous attend jusqu'à minuit. Vous avez encore largement le temps d'aller déjeuner ou d'aller passer la journée à la plage de l'herbe et vous rafraîchir au bar de l'hôtel. Les amis, les locaux, les vacances, le travail, tous les milieux et tous les âges se retrouvent à l'hôtel de la plage depuis plus d'un siècle et façonnent l'esprit du village.